A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu.
Quand on prépare la Réu, il faut souvent rattraper plein de films et c'est souvent compliqué de les trouver au même endroit maintenant qu'il y a plein de plateformes de streaming. Mais justement, cet épisode de la Réu est sponsorisé par NordVPN. NordVPN, c'est un service de cybersécurité qui vous assure un accès serein sur Internet, notamment en chiffrant votre activité en ligne pour protéger votre anonymat et vos données personnelles.
Non mais d'accord, mais tu pourrais parler de ce qui nous intéresse vraiment ?
Tu veux dire le fait que NordVPN permette de changer d'emplacement virtuel et donc de se débarrasser des géorestrictions pour regarder à tout hasard le catalogue américain de Netflix ou de Disney+.
Je suis rédactrice cinéma et je suis trop pauvre pour m'acheter des Blu-ray, donc je te laisse faire le calcul.
En tout cas, plus d'excuses pour ne pas rattraper toute la filmo de David Fincher avant The Killer. Et ces changements d'emplacement, ça permet aussi de faire des économies ailleurs, notamment pour certains produits ou même pour des voyages où les prix varient selon les pays. Avec le code promo LARÉU ou le lien en description de ce podcast, vous pouvez obtenir 4 mois offerts sur un abonnement d'un ou deux ans jusqu'à la date du 29 novembre 2023. Le logiciel est synchronisable sur jusqu'à 6 appareils en simultané et il y a une garantie satisfait en remboursé de 30 jours. Et maintenant, retournons parler de David Fincher. Eh bien, bienvenue à cette tribu de rédaction, Alexandre et Judith.
Salut.
Salut Antoine.
Pour la sortie de The Killer, on avait commencé à explorer la carrière de David Fincher en se demandant ce qui pouvait bien obséder un réalisateur aussi obsessionnel. Et on avait déjà navigué entre plusieurs pistes intéressantes, mais d'autres méritaient d'être approfondies. Et donc justement, on avait vu que les films de Fincher peuvent être interprétés de manière très diverse, voire contradictoire, et comme le bonhomme a approché des genres très différents, j'ai l'impression que chaque spectateur peut se raccrocher à une œuvre plus qu'une autre. Donc justement, peut-être pour recommencer cette nouvelle Réu, pour se remettre en jambe, j'avais envie de poser cette question toute simple. C'est quoi votre Fincher préféré et pourquoi, Judith, pour commencer?
Ouais, écoute, comme moi, je suis pas fan, ça change, oh là là. Ça change toutes les 5 minutes sur celui que je trouve le moins pire. Non, j'exagère un peu, mais en fait, je suis obligée de choisir parmi les personnages féminins intéressants. Désolée, mais c'est vraiment... Il y a tellement un écran entre le sexisme de ces films parfois et moi que, pour le coup, je suis hyper soulagée quand il fait des personnages féminins qui sont hyper intéressants. Donc, ça vacille entre Gone Girl, Millennium et Panic Room. Et je pense que... Je sais que ça va peut-être vous faire pousser les hauts cris, mais je pense que je vais choisir Panic Room.
Oh. Ouais. Ah, mais un choix intéressant.
Parce que, pourtant, on en reparlera, et je ne suis pas séduite partout pour ce film dans lequel je trouve que la technique est très très au premier plan, mais Jodie Foster, je trouve qu'elle est vraiment incroyable et que là, elle a un rôle à sa mesure. Et en fait, elle apporte tellement de personnalité dans cette histoire où son personnage, finalement, on sait très peu de choses dessus. Et pour le coup, je trouve qu'il y a un truc qui matche vachement bien entre elle et l'univers de David Fincher. Et ouais, je sais pas, il est simple, mais il remplit complètement son objectif, je trouve. Et du coup, je trouve qu'il a une efficacité, en fait, qui me séduit plus que des tentatives plus compliquées qu'il a pu faire par ailleurs.
Ce qui est marrant, parce qu'en plus, quand on sait que c'est Nicole Kidman qui, à la base, avait le rôle, et qu'ils ont même commencé à tourner avec elle avant que la pauvre ne se pète la jambe, et comme elle devait beaucoup courir et des trucs comme ça, impossible pour elle d'enchaîner le tournage. Donc, Foster est vraiment arrivé un peu à la rescousse, en ayant eu très peu de temps de répète pour faire le film. Et ce qui est marrant, c'est que Fincher, quand il en parle, dit surtout que lui, il s'est rendu compte, et je crois que c'est sur ce film-là en particulier que ça a effectivement changé pas mal de choses dans sa manière de penser les personnages féminins, Il disait qu'il se rendait compte qu'il pouvait pas filmer Jodie Foster de la même manière que Nicole Kidman, qu'il y avait vraiment un truc dans la pure physicalité de ces deux actrices qui était très différent. Il disait que Nicole Kidman, il a filmé toujours en plan taille, il y avait toujours un truc à l'appel à un plan un peu moyen, parce qu'elle joue beaucoup avec ses bras, le visage fait partie vraiment de sa manière globale de jouer avec son corps. Là où Jodie Foster, il dit, c'est une actrice qui appelle au gros plan. Il dit, le gros plan, je fais attention à pas trop l'utiliser, mais quand tu vois Jodie Foster et la précision de son regard et de sa manière d'en jouer, il dit, t'es obligé de la filmer en gros plan. Donc ça a vraiment changé pas mal de trucs dans sa manière de le penser. Mais c'est marrant que tu penses à Panic Room, c'est souvent un film un peu mal aimé de Fincher, et moi c'est un film que j'aime beaucoup et on y reviendra aussi. C'est vraiment un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Mais toi, Alexandre, du coup, c'est quoi ton Fincher de cœur?
Moi, mon Fincher de cœur, je dirais que c'est Fight Club, mais celui que je trouve que je préfère maintenant, celui qui m'a amené à Fincher et au cinéma, c'est Fight Club. Donc forcément, j'ai une tendresse pour ce film. Mais celui que je trouve le plus abouti, le plus parfait, c'est The Social Network, tout simplement. Je trouve vraiment que c'est un film. Quand je l'ai vu, en fait, encore une fois, je connaissais pas grand-chose au cinéma, donc je l'ai regardé, je me suis dit, bon, un truc sur Facebook, ça m'intéresse pas trop. À l'époque, j'avais même pas de compte Facebook, d'ailleurs, donc je m'en battais totalement les couilles. Et j'ai regardé, et j'ai été totalement ahuri par le film, dans la narration. En fait, dès la scène d'introduction, ça m'a complètement happé de voir deux personnages... En fait, je trouve que la scène d'introduction raconte tellement tout ce que va être le film, c'est-à-dire un personnage incapable de parler avec la personne qu'il a en face de lui, d'être toujours en décalage, soit trop en avance, soit en retard vis-à-vis de la personne avec qui il parle, d'être violemment sexiste en permanence, et globalement de devoir, quand il part, juste d'être isolé, de devoir, pour s'épanouir, aller retrouver son ordinateur pour pouvoir... s'épanouir de manière virtuelle. Donc je trouve que le film en 10 minutes englobe absolument tout ce que va être The Social Network dans une manière absolument parfaite, dans tout ce que ça va raconter d'une manière visionnaire un peu, parce que le film sort en 2010, donc on est quand même au début des réseaux sociaux d'une certaine manière. Facebook, ça c'est né en 2004, mais en vérité à l'international ça commence à s'étendre dans les années plutôt 2006-2007, donc ça fait quoi, 3 ans que Facebook existe vraiment à cette époque. Et avec le scénario de Aaron Sorkin et donc qui est souvent très rapide, très très punchy quoi, dans les dialogues à toute vitesse, et le rythme de Fincher à côté qui vient alterner plusieurs timelines. Il y a quand même 2 procès en même temps, plus la vie de Mark Zuckerberg relatée de manière chronologique sur son avancée et la création de Facebook. Il y a tellement de choses, le film le raconte tellement de choses, tellement abouti narrativement. On ne veut pas parler de la mise en scène qui est juste, il n'y a pas un cadre qui dépasse l'autre. Enfin voilà, je trouve le film passionnant. Voilà, il en avance sur le danger des réseaux sociaux à venir, la quête d'identité permanente de cette jeune génération qui est perdue et qui va essayer de le retrouver vis-à-vis de quelque chose qui va... d'une certaine manière les éloigner les uns des autres, puisque la seule manière dont ils vont réussir à se parler maintenant, c'est de manière virtuelle. Et je trouve assez beau qu'en fait cette personne à la fin, beau dans le sens tragique, que cette personne à la fin, au début il est en face à face avec sa future ex, en tout cas sa compagne au moment quand il discute, sa copine. Et à la fin, ne recherche qu'une chose, c'est de la retrouver. Mais comment la retrouver, si ce n'est de manière virtuelle, en appuyant sur F5, parce que cette génération n'est incapable d'être patiente, donc de rafraîchir en permanence sa vie en pensant qu'elle va pouvoir se rebooter. Enfin, je trouve que le film raconte...
Par sa propre création, ce qui est terrible, en fait.
C'est magnifique, quoi. C'est The Social Network. Et je comprends qu'on puisse pas aimer, mais en même temps, je comprends pas. Donc...
je te suis un peu. Enfin, je pense que moi, ça, un peu comme Judith, j'oscille régulièrement selon quand je les revois et l'humeur dans laquelle je suis. Donc, je pense que The Social Network resterait dans. Enfin, pour moi, il se prend la première place avec Zodiac. Moi, c'est vraiment peut-être pour le coup Zodiac qui est celui qui, à l'époque, avait été le plus grand choc quand j'avais vu, parce que je l'ai vu à la télé. Et que je m'étais dit, ça va durer 3 heures, ça va peut-être être chiant, je sais pas trop si j'ai envie de voir ça. Et en fait, j'ai été soufflé du début à la fin. Et là, pour préparer cette revue, je l'ai revu. Ce que j'avais pas fait depuis longtemps, et j'ai été toujours autant happé par le film. En fait, je trouve que c'est hallucinant comment il te fait un film qui est à l'opposé total de ce que t'attends d'un film d'enquête, qui est super lent, qui est en plus dans cette idée de te filmer du vide. En fait, c'est un film de vide, Zodiac, c'est un film qui te montre jamais rien, qui aussi, enfin, qui navigue dans des couloirs, qui fonctionne que sur l'hypothèse permanente et qui te filme ça en plus avec, à l'époque de la HD, du numérique, de manière extrêmement classieuse, mais en même temps avec une froideur qui fait que tu as l'impression du côté très factice de tous les environnements qui te sont montrés, alors que paradoxalement Fincher cherchait l'ultra-réalisme, mais dans cet ultra-réalisme de cinéma, tu as aussi cette sensation de voir du rien en fait. Et je trouve très beau comment lui en joue d'un point de vue scénique. T'as régulièrement cette idée très belle, et je pense qu'il a pour le coup a échappé à l'auteur du bouquin original dont il s'est inspiré pour écrire Zodiac, qui est donc ce mec joué par Jake Gyllenhaal qui petit à petit, alors que c'est pas du tout son boulot, se met à enquêter sur le tueur du Zodiac qui ne sera jamais retrouvé et qui devient lui-même en fait ce mec taré. Enfin, il devient un mec fou qui traque une chimère, et plus ça t'avance dans le film, plus le vide que lui traque, c'est lui qui devient ce vide-là. Et dans sa manière de le cadrer, t'as des séquences, notamment avec sa femme, donc la copine qu'il rencontre et qui devient au fur et à mesure sa femme et avec qui il a des enfants. Quand il la filme, le dialogue se fait à sens unique, en fait. Lui est dans la salle de bain et il te filme l'entrebâillement de la porte et tu le vois pas lui, en fait. Il vient dans le cadre plus tard. Et il y a plein de moments comme ça où Zodiac joue sur l'espace vide, en fait, du cadre. Et c'est là, pour moi, que Fincher est le plus doué, parce que t'as une précision dans le cadrage qui fait que, chez plein d'autres cinéastes, tu pourrais te dire c'est pas forcément très beau esthétiquement. Et lui arrive toujours à t'en tirer un truc qui non seulement fait sens, mais où tu te dis, putain, il y a une réussite stylistique qui est absolument brillante.
D'ailleurs, pour revenir par rapport à la femme de Robert Graysmith, le vrai Robert Graysmith a d'ailleurs dit qu'il avait compris pourquoi il avait divorcé grâce à ce film.
Oui, pourquoi elle l'avait quitté. Genre, ouais. C'est ouf. Ouais. Donc, comme quoi, ça dit vraiment quelque chose, parce que ça lui a mis lui-même une lumière sur le dysfonctionnement de son propre mariage.
Et du coup, parce que voilà, je pense que c'est ça, Fincher, tout le monde se l'approprie aussi selon le moment où tu le découvres dans ta vie. Toi, tu parlais de Fight Club, à quel point Fight Club a une importance dans ta cinéphilie, et je pense que pour beaucoup de gens, ça a été le cas. Donc, du coup, on a notre beau serveur Discord avec plein de gens très sympathiques dessus, on leur a demandé. Avec l'ami Mathieu de sélectionner leur Fincher préféré et donc de faire le classement. Donc il y a le top 11. Donc sans grande surprise, j'ai envie de dire, je vous annonce quand même que c'est Mank qui est actuellement dernier. Parce qu'il n'y a pas The Killer du coup dans le classement, il n'y a pas The Killer, okay. On l'a fait avant The Killer. Et Alien 3 est en 10e position, mais j'ai envie de vous demander, à votre avis, c'est quoi le top 3 de ce classement de nos abonnés?
J'ai bien peur qu'il y ait Fight Club dedans.
Alors il y a Fight Club, mais à quelle position du coup?
J'aurais eu tendance à dire première.
Alors, pas première, justement.
Ok.
Mais Fight Club est en deuxième position.
Top 3, j'ai une chance sur deux maintenant. Donc. Ouais. Ah, deuxième position. Moi, j'aurais dit troisième. Position, donc.
Mais du coup, quel serait du coup le premier? Si vous avez pensé à Fight Club assez haut, c'est assez facile de dire.
Bah oui. Seven
ouais. Qui est le premier, ouais. Okay. Et Zodiac prend la troisième place avec Gone Girl en quatrième et The Social Network seulement en cinquième place en soi, donc ce qui peut paraître assez surprenant. Okay.
Après, je pense que The Social Network, qu'il soit aussi bas, je peux comprendre parce que c'est pas un film. C'est un film que potentiellement qui n'est pas fait pour être revu, je pense, par le grand public. Ça peut ne pas être aussi jouissif à suivre qu'une enquête comme Seven, comme une enquête comme Millennium, ou enfin Millennium n'est pas dans le classement, mais
si, il est plus bas, il est juste derrière Social Network.
Il n'est pas dans les premiers, mais comme Seven ou comme Zodiac est aussi quand même une enquête. Il y a quelque chose de plus, je sais pas, divertissant peut-être.
Ouais. Enfin bref, du coup moi j'avais envie un peu qu'on relance cette discussion là. On a vraiment parlé dans la première partie de cette réu de comment Fincher tissait ses thématiques, peut-être notamment aussi de son perfectionnisme de cinéaste, de son côté parfois un peu relou d'ailleurs en tournage pour les gens qui taffent avec lui. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment lui perçoit aussi sa mise en scène et comment il perçoit son approche du cinéma. Et il y a un terme qui revient assez souvent quand on parle de Fincher et que lui-même emploie d'ailleurs, c'est le terme d'omniscience. Ce qui est souvent ce que certains raccordent à sa froideur peut-être, parce que du coup, c'est l'idée finalement que sa caméra serait assez... il faudrait qu'on ne perçoive pas l'idée qu'il y a un opérateur derrière et qu'il y ait une sorte de perfection du plan qui en fait emporte une forme de destinée. C'est ce qui doit arriver pour décrire l'action qui est en train de se dérouler, et ça peut pas être fait autrement. Et donc voilà, ça aborde une forme d'omniscience plutôt que la pure subjectivité d'un personnage, ce qui est assez bizarre parce qu'on parlait finalement dans la première partie d'à quel point ce qui intéresse aussi dans son cinéma, c'est comment il aborde la pure subjectivité de ses personnages via cette omniscience, finalement comment on aborde un point de vue précis de personnage. Et j'avais un peu envie d'avoir votre point de vue là-dessus, en fait, finalement, pourquoi on s'attache, ou pas d'ailleurs, autant à la mise en scène de Fincher dans sa précision, surtout, je pense, c'est quelque chose sur lequel on peut revenir aussi, de cette de cette distinction qu'on peut faire dans sa filmo qui s'est faite un peu en deux temps, quand il a travaillé en pellicule jusqu'à du coup Panic Room qui était tourné en 35mm et à partir de Zodiac quand il s'est mis à tourner en numérique et à ne plus quitter le numérique jusqu'à maintenant.
Bah, moi, effectivement, on l'a pas tellement évoqué la semaine dernière quand on a fait la première partie de cette réu, mais moi, l'un des gros problèmes que j'ai avec Fincher, c'est effectivement cette froideur qui me laisse beaucoup en dehors de ses films. Et malgré le fait que je trouve qu'il y ait beaucoup de choses intéressantes en théorie dans ses films, j'ai du mal à être touché par eux, j'ai du mal à être bouleversé par eux. Et effectivement, il y a cette espèce de mise à distance, donc on y reviendra par moment, je peux trouver ça intéressant, mais globalement, ça me décroche des films que je vois comme une espèce de surface où la technique est au premier plan, et c'est un peu contradictoire parce que donc j'en parlais pour Panic Room, que par ailleurs j'aime bien, mais où là vraiment on est dans l'expérimentation des plans, enfin le plan séquence là, quand on sait que voilà, les cambrioleurs vont rentrer dans la maison et qu'on a cette espèce de caméra qui bouge toute seule d'étage en étage et qui passe
dans la
ronce de la cafetière et tout.
Dans la serrure.
Et où là, quand même, là, on ressent quand même des CGI, je trouve, quand même dans la modélisation des objets. On peut pas faire autre chose que justement penser à la technique et se dire comment est-ce qu'ils ont fait ça, essayer de visualiser les... Et où là, ça sort du film, et où, du coup, je comprends pas tellement cette histoire, tu vois, ce que tu nous dis dans son intention, parce qu'en fait, je trouve qu'il fait l'inverse, où je comprends son plaisir et son désir d'expérimentation, mais en fait, moi, ce que je vois, c'est effectivement l'expérimentation plutôt que le résultat, quoi.
Bah après, je pense que ça dépend des films. J'ai l'impression que justement, tu vois, plus il a gagné en virtuosité, plus il a su l'effacer. Je pense justement qu'à partir de Zodiac, il a vraiment pu trouver une sorte de sérénité là-dedans où il n'a pas tellement besoin de faire... Il y en a des plans virtuoses dans Zodiac, mais je trouve que Panic Room, c'était peut-être d'ailleurs un exutoire, je pense, dont il avait besoin. Et c'est aussi pour ça que c'est un film qui me passionne autant, parce que lui-même le voit vraiment comme un exercice de style, où il disait lui-même que David Koepp, donc le scénariste qui est connu pour Jurassic Park, Indiana Jones 4 ou le premier Spider-Man...
connaît aucun de ses films.
Quand il l'a écrit, à l'époque, le scénario était très... Enfin, il a tourné dans de nombreuses mains. Et ce que aimait Fincher, c'était le côté sans fioriture. Il le dit lui-même, en fait, dans le commentaire audio du film, où il parle vraiment de ce côté très rentre-dedans, t'es direct dans l'intrigue. Et finalement, à part le début qu'ils ont un peu réécrit pour vraiment encore plus être rentre-dedans, d'ailleurs, dans la relation entre Jodie Foster et sa fille, finalement, l'idée, c'est que tu rentres vraiment tout de suite dans le film, quoi. Et pour le coup, j'aime vraiment ça. Et pour le coup, ça amène... Moi, ce qui m'intéresse particulièrement chez Fincher, c'est que il a toujours été un peu cadenassé par la pellicule, parce que bah forcément, quand tu aimes faire 90 prises, mais que bon, au bout d'un moment, t'as pas des contenus limités de 35 mm, donc t'es obligé de faire un peu avec ce que t'as. Ce qu'il a pu faire avec Panic Room pour la première fois, c'est tester de la prévisualisation numérique. Ce qui était très novateur pour l'époque, hein, parce que finalement, ou alors ça se faisait sur quelques petites séquences à effets spéciaux, comme pouvaient le faire des gros blockbusters super-héroïques comme Spider-Man ou les X-Men. Mais lui a storyboardé l'intégralité du film comme ça. Ce qui est hallucinant, quoi. Mmh. Donc ça lui a pris des mois et des mois de taf. Mais ce qui a fait que surtout, par la suite, Panic Room a pu faire un truc que moi je trouve très impressionnant, c'est de se dire on construit la maison intégralement en studio. Et comme ça, on sait. L'idée, c'était de la faire sur barre de fer pour que tous les murs soient pas porteurs et qu'ils puissent enlever les murs pour pouvoir mettre la caméra là où ils voulaient et faire du coup ce qui... Vraiment faire des mouvements de caméra parfaits. Au-delà de passages où il y a une caméra numérique qui clairement passe entre les murs ou passe dans les conduits d'aération, ce genre de truc-là. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir ce truc-là de quasi... de perfection. Et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, je pense que le plan numérique le plus connu ou qui reste à l'intérieur de la maison d'ailleurs, qui ne sort pas pour montrer les futurs cambrioleurs, reste à l'intérieur de la maison et essentiel pour comprendre tout l'espace à ce moment-là. Mais ce que te dit Fincher, lui, de ce plan-là, c'est qu'il dit c'est un plan à la Terminator. Il dit qu'il aime beaucoup le fait qu'il est exclu de toute humanité parce qu'il est impossible à faire justement autrement qu'en numérique et qu'il ne peut pas y avoir un opérateur derrière ça. Et que d'ailleurs, les morceaux qu'ils ont fait pour de vrai, qui ont été raccordés par du numérique derrière, ils ont globalement atténué les effets du Steadicam en post-prod derrière pour encore plus rendre le truc super fluide et donc pas humain en fait, l'idée de ne pas ressentir l'humanité et donc une personnalité de cadreur derrière ça. Et je trouve que, mais c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a une forme de paradoxe là-dedans où d'un autre côté, moi ce qui me fascine dans la démarche de Fincher, c'est que moi je ressens une forme de totale adaptation, voire de vraiment de l'idée de s'accrocher à un personnage. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que par la perfection de ses mouvements de caméra, il colle à la gestuelle précise d'un personnage. Tu adoptes son point de vue de la manière la plus pure qui soit, parce que si le personnage ne fait même qu'un tressaillement de la tête, et bah t'auras un panoramique pour l'accompagner, même très, très léger. Et si le personnage marche doucement, t'auras un travelling lent. Et si le personnage bouge vite, bah t'auras un travelling rapide pour le suivre ou un panoramique rapide. Mais l'idée, c'est que le moindre... T'es dans le tempo des personnages au moment où ils sont là. Et c'est pour ça d'ailleurs que bah, des fois ça nécessite 90 prises.
Mais alors c'est intéressant que tu dises ça parce que moi c'est précisément, je crois, un des aspects que j'aime pas. C'est, je pense, une des choses qui fait que ces films sont agréables à regarder, sont confortables à regarder. Enfin oui, confortable, je pense que c'est le meilleur mot. Mais alors pour moi, alors certes, j'adore les plans fixes, donc j'y suis assez attachée. Mais justement, on a beaucoup dit que voilà, il y a ces micro-mouvements de caméra, dès qu'un personnage se lève, on le suit, dès que, comme tu le disais très bien, de toute manière. Mais en fait, j'ai l'impression que ça, c'est un petit peu la version perfectionnée de ce que font intuitivement énormément de cadreurs, quand même, enfin énormément de réalisateurs. C'est un peu pour moi la facilité finalement de suivre les mouvements plutôt que de penser ton cadre, tu vois, à l'intérieur de ce même cadre. En tout cas, moi je suis davantage sensible à l'idée d'un plan fixe que tu vas penser comme un cadre dont il faut pas sortir ou alors penser ce qui va en sortir. Mais voilà, moi ces mouvements, je trouve qu'en fait, et justement ce que tu disais sur le fait qu'on sent pas la personnalité d'un cadreur derrière, je dis pas que dès que t'as une caméra un petit peu shaky, t'as énormément de personnalité dans ton plan, mais malgré tout, il y a quelque chose de plus incarné qui fait que là, c'est intéressant ce que tu dis sur le plan Terminator, tu vois, il y a quelque chose de ouais, vraiment désincarné et non humain qui contribue à cette froideur qui, pour moi, bah, me fait penser à de l'exercice de style, mais surtout en plus quand il va commencer à faire du tout numérique ou sur Zodiac, voilà, alors même si c'est extrêmement bien fait, tous les plans en extérieur sont numériques, tout le sang est numérique, enfin énormément de numérique, on va de plus en plus vers la désincarnation. Et moi, ça me plaît pas, en fait. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de facile là-dedans, non pas techniquement. J'entends bien que techniquement, c'est très difficile et ça demande énormément de travail, mais de plus facile dans la narration et dans la manière dont ça ôte de la personnalité au film, finalement. Ça lui ôte de la rugosité et donc...
C'est intéressant. Ouais. Et c'est d'autant plus intéressant que je me demande, tu vois, si finalement, la question de la désincarnation... justement que tu évoques n'est pas déjà, bon, je pense que dans Zodiac, tu vois, qui est son premier film full numérique, c'est une question parce que t'as la désincarnation déjà de la figure du Zodiac qui ne sera jamais présente et de la désincarnation progressive de tous ceux qui enquêtent sur le Zodiac au fur et à mesure qu'ils deviennent eux-mêmes plus ou moins tarés en enquêtant sur l'affaire et de ce temps qui passe en plus, tu vois, moi pour le coup l'attrait majeur du numérique dans Zodiac qui est la reconstitution très fidèle et en même temps de pouvoir faire des plans en time-lapse des monuments de San Francisco qui te sont montrés pour bien te montrer que bah, il y a des années et des années qui passent sans que tu revoies le Zodiac ou pendant lesquelles on l'a toujours pas chopé, donc il y a un truc assez terrible là-dedans que je trouve assez, assez fascinant. Et en même temps, moi je pense que c'est dans ces films-là que Fincher m'attire le plus. Enfin, vraiment, il y a un effet hypnotisant où plus il s'attache à ces personnages-là. Et en fait, là où je peux pas totalement supporter ce que tu disais sur...
Il supporte pas le mot que je voulais employer.
Soutenir,
voilà. Je peux pas soutenir ce que tu as employé, pardon. C'est que... c'est très compliqué de faire de manière aussi précise ce que Fincher arrive à faire quand tu captes des personnages de manière aussi... précise que ça, en fait. Moi, c'est dans Millennium en particulier, moi, je trouve ça flagrant quand, des fois, c'est le petit... les moments où Michael a une illumination ou Rooney Mara et que c'est vraiment le moment où il va te faire le micro-geste qui accompagne leur mouvement, le moment où tu sens qu'ils ont compris, en fait. Et c'est super dur à faire, je trouve, dans un film d'enquête, ça, le faire bien sans faire un truc énorme de... J'ai fait un cut et les personnages ont les yeux écarquillés et soudainement, il y a un énorme truc. C'est souvent grotesque, en fait. Là, c'est d'une finesse, d'une subtilité. Et moi, c'est dans ces moments-là où, en fait, il m'emporte dans le rythme du truc. Et dans Zodiac, c'est notamment moi ce qui me fascine, c'est la variable permanente où finalement c'est les mêmes scènes un peu répétées de lui qui enquête encore et toujours, qui va chercher Mark Ruffalo pour lui parler de sa nouvelle découverte, du fait qu'il tourne en rond et cette manière de tourner en rond, il t'embarque dans cette ritournelle avec lui et tu le lâches plus parce qu'en fait le film t'impose ce rythme là comme dans The Killer d'ailleurs, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que soit on rentre dans The Killer ou pas, parce qu'il t'impose une rythmique mais qu'il l'impose par ce rythme de mise en scène et par ses petits mouvements et par ce truc là et par rapport à ce que tu disais, quand il du coup met de la shaky cam, c'est très rare, mais quand il en met, bah ça a un sens tout particulier. Dans Seven, t'as de la shaky cam sur la fin, t'as le what's in the box, mais en fait tu as Kevin Spacey qui lui est en plan fixe, de manière, je contrôle totalement l'environnement. Voilà, tu vois, c'est
panoramique,
ça. Panoramique, super, super vénère et tout ça. Alors que t'as la shaky cam autour de Brad Pitt et de Morgan Freeman qui sont en mode, on a perdu le contrôle de ce qui se passe.
Bah oui.
Et dans The Killer, c'est pareil. Le film est peut-être l'un des plus contrôlés de Fincher et c'est l'un de ceux où il y a le plus de shaky cam au moment, surtout dans le deuxième acte, dans le deuxième chapitre, quand il rentre chez lui
quand
et que c'est la merde.
Quand il rentre chez lui et que c'est la merde. Et intéressant de savoir que ce plan n'a pas été fait en caméra épaule, mais a été totalement refait en caméra épaule grâce à la post-production. Bref, on y verra. En fait, à la base, ils voulaient faire tout le film en caméra épaule, pour parler de The Killer rapidement, ils voulaient faire tout le film en caméra épaule, sauf que ça fonctionnait pas du tout. Donc, ils ont dit, Fincher a dit à Eric Messerschmidt, donc son chef-op depuis, on va dire, il a travaillé avec lui sur Mindhunter, mais depuis Mank, où il a eu un Oscar, et donc maintenant pour The Killer, mais qui avait été gaffeur sur Gone Girl. Voilà, comme quoi on peut vraiment progresser très vite si on est très fort. Mais il lui a dit, en fait, ce serait bien qu'on fasse tout en plan fixe. Plan fixe dans le sens Steadicam ou des trucs comme ça, hein, pas forcément avec un trépied et tout. Mais que ça soit fixe, net, et qu'on puisse ensuite tout rechanger en post-prod. Donc toute la caméra épaule de
quel immense taré
de The Killer est faite en post-prod. Mais non, mais en plus, du coup, pour revenir à cette bascule un peu en numérique, c'est assez moi aussi je suis d'accord, enfin moi je suis plus du côté Antoine aussi, depuis qu'il a basculé dans le numérique et surtout dans la perfection indicible à l'œil, je trouve ça beaucoup plus intéressant que cette sorte d'épate et du coup très clipesque pour le coup qu'il avait dans sa première partie de carrière jusqu'à Panic Room. Quand tu vois Fight Club, à quel point le montage il est violent, à quel point The Game peut partir sur des grands délires visuels avec le personnage de Michael Douglas complètement parano, ou dans Seven, où enfin, tout est très très visuellement... j'ai l'impression qu'il veut toujours chercher à m'impressionner avec sa caméra, etc. Et alors tout prend son sens avec Panic Room, où vraiment, là, c'est ce que tu dis, hein, y a vraiment une sensation de la caméra la bosse, quoi. C'est littéralement, je peux lui faire tout ce que je veux, et parce que j'ai compris comment elle fonctionnait. Et à partir de Zodiac, il y a vraiment cette bascule. Je sais pas si la bascule, c'est parce que entre Panic Room et Zodiac, il y a son père, Jack Fincher, qui décède. Et je sais pas si à ce moment-là, il y a un changement de paradigme dans sa tête où je n'ai plus besoin d'épater mon père pour le rendre fier, et du coup, je peux vraiment aller ailleurs. C'est intéressant d'ailleurs de passer de quelque chose d'ancien, la pellicule, et de basculer progressivement vers une sorte de numérique quand son père décède, et donc potentiellement une partie de lui ancienne, plus traditionnelle, plus lointaine, n'est plus à ses côtés, et qu'il bascule dans quelque chose de beaucoup plus moderne, ce que son père n'a jamais connu. Je trouve ça assez beau, et je trouve que ça se perfectionne de plus en plus, quitte à devenir un peu froid, beaucoup plus froid qu'avant, notamment vis-à-vis des couleurs. Hein. Avant, c'était assez jaunâtre, voire... enfin, un peu crasseux visuellement, oui. Quoi.
Il y a un côté très texturé qui est un truc, voilà. Que, mine de rien, c'est notamment ce qui fait que Nolan ne jure que par la pellicule, parce que notamment dans le noir, dans le contraste et dans le noir et le blanc, notamment Seven, c'est un film qui a une texture mais qui est incomparable en fait, mais que tu pourrais pas obtenir avec du numérique. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tous les films, les néo-thrillers aujourd'hui, qui est notamment venu d'Asie, qui s'accapare le numérique pour essayer de refaire du Seven, n'y arrive jamais totalement. Ou alors, il faut que tu singes un grain de pellicule sur du numérique pour essayer de retrouver cette patte-là que tu peux plus avoir, en fait. Et c'est, je pense que c'est illusoire d'essayer de la retrouver.
Ouais, et je suis d'accord. Et pour revenir à Panic Room, ce que tu disais, que le fait que la caméra soit... Donc, t'aimes beaucoup Panic Room, c'est peut-être ton film préféré de Fincher, etc.,
j'aime
comme tu
bien.
Nous disais.
Oui.
Ouais, pour ça. Elle n'aime rien, c'est ça qu'il faut comprendre.
T'aimes bien Panic Room, c'est peut-être celui que tu préfères. Mais... le fait que la caméra soit aussi importante et aussi fluide, capable de tout, en fait, je pense que ça raconte quelque chose par rapport au film en lui-même, où littéralement les personnages, celui de Jodie Foster hein, en l'occurrence, et de sa fille, mais un peu moins puisqu'elle est sur le côté, doivent au fur et à mesure se libérer de l'omniscience de la caméra pour prendre vie. À la fin, qu'est-ce qu'elle fait, le personnage de Jodie Foster? Elle détruit toutes les caméras pour pouvoir s'affirmer et ne plus être contrôlée par quelque chose qu'elle ne contrôle pas, justement. Mmh. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est-à-dire qu'elle bascule la manière dont le film l'enfermait petit à petit, la caméra l'enfermait. Il y a ce panoramique et Zoom en même temps, qui est d'ailleurs très Hitchcockien dans l'idée en soi de travelling arrière et Zoom avant pour venir rétrécir ou agrandir les personnages en fonction de l'espace qui les entoure. Et la manière dont elle est à la fin libérée de l'espace où elle était enserrée par la caméra à la fin, la caméra lui redonne cette possibilité de s'extraire de ce qui l'enfermait depuis le début. Il y a du sens, je trouve, dans la caméra, et même si c'est très 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 perfectionné parce que le monsieur est complètement taré et qu'il veut tout faire en numérique et qu'il prévisualise, ce qu'il a regretté par ailleurs par la suite, hein. Il a dit que la prévisualisation était une énorme connerie parce qu'en fait ça avait complètement enfermé les acteurs dans des choses qu'ils étaient obligés de suivre à la lettre, ce qu'ils détestent finalement, raison pour laquelle il fait énormément de prises dans tous ses films, même si on pense que c'est une forme de perfectionnisme. Mais en fait Fincher, quand il fait ça, quand il refait faire les prises, etc., c'est pour justement aller chercher la petite erreur qui donne quelque chose d'original ou en tout cas d'authentique chez le personnage, et donc chez l'acteur et donc chez le personnage dans ses films. Ce qui est du coup un peu paradoxal, mais c'est ça qui est
intéressant. Oui, l'humain passe par les acteurs et pas par les opérateurs, justement. Mais c'est même marrant parce que dès Alien 3, ce que les comédiens, malgré le chaos de la production, reconnaissent, c'est sa capacité incroyable de direction d'acteur, en fait. De comment donner les bons conseils au bon moment, de pas être trop intrusif, mais de. Notamment Sigourney Weaver, vraiment, ne tarissait pas d'éloges là-dessus en disant qu'elle a trouvé qu'il était extrêmement talentueux pour ça, malgré son jeune âge d'ailleurs.
Je voulais juste revenir un instant avant sur les mouvements de caméra dont parlait Alexandre, avant de parler davantage des acteurs. Mais ce que tu dis, tu vois, sur à la fin de Panic Room, la caméra qui se recule pour laisser enfin respirer les personnages et la manière dont on les suit au fur et à mesure du film, enfin dans tous ces films d'ailleurs, donc comme on le disait, sur les moindres mouvements et tout. Je veux bien, mais notamment la fin de Panic Room, tu vois, il y a combien de films, et notamment combien de films américains qui en plus se passent à New York, qui se terminent sur un dézoom, tu vois, tous, enfin énormément. Et enfin, je veux dire, c'est une fin extrêmement classique, et c'est pareil, la manière de suivre les personnages quand ils sont en train de courir, en train de faire ceci, en train de faire cela, c'est quand même des choses qui existent depuis qu'on a inventé le mouvement de caméra, quoi. Donc c'est ok, Fincher le fait de manière extrêmement lisse, donc moi justement c'est cette lisseur qui ne me plaît pas spécialement, mais qui peut être une perfection technique ou un style qu'on admire, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas quelque chose d'extrêmement révolutionnaire, c'est encore quelque chose qui manque pour moi de donner une personnalité à des films, quoi.
Bah, en fait c'est révolutionnaire parce que personne ne l'a jamais fait de cette manière, c'est-à-dire de manière ultra, enfin complètement la prévise là pour le coup, mais ça c'est du jamais vu en fait, c'est littéralement personne n'a jamais prévisualisé un film en entier transformer, etc. Et certes les mouvements sont un peu revus, mais j'ai envie de te dire la fin qui fait donc ce, quand elles sont dans, j'imagine, Central Park. Et qu'elles réfléchissent à des apparts et que t'as donc l'espace qui s'agrandit autour d'elles et elles qui restent de la même taille par le geste de la caméra, c'est très classique et c'est très Hitchcockien, et en même temps le film est un pastiche de ce que fait Alfred Hitchcock, c'est littéralement un hommage à la moitié de ce qu'a fait Hitchcock, du générique de début à Fenêtre sur cour, ouais, j'avoue aussi, enfin la plupart de ce qu'a fait Hitchcock, donc littéralement ce geste de caméra de dézoom, enfin de zoom avant et de travelling arrière ou inverse, c'est littéralement ce qui est dans Vertigo et qui a complètement soufflé avec sueur froide avec le personnage de, je sais plus comment il s'appelle, Cary Grant ou
James Stewart.
Merci. Quand il va chuter et qu'il a cette sensation de vertige.
Ah mais c'est pas la même ampleur là quand même. Bah, c'est pas...
Bah, tu vois, là où je suis pas d'accord, parce que moi justement ce qui me passionne dans Panic Room, c'est que moi je suis... Pour le coup, j'aime bien le côté ludique du cinéma. Enfin, de toute façon, bon, je pense que quand on aime le cinéma, on aime le côté ludique que peut avoir le cinéma. Et c'est vrai que souvent, on considère Panic Room comme un film un peu plus mineur dans la filmo de Fincher. Mais en fait, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il y va à fond dans le côté. C'est un exercice, comme justement Hitchcock pouvait le faire aussi. Et que ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres choses derrière. Mais moi, là, pour avoir revu le film avec le commentaire audio de Fincher, donc j'ai vraiment fait gaffe quasiment qu'aux images et à ce que racontait Fincher et pas au dialogue et ou à la situation qui est finalement assez simple à suivre. Moi, j'ai été bluffé par à quel point, pour le coup, ce contrôle total par la prévise lui donne, donne la sensation de comprendre constamment l'espace et comment il peut renouveler en permanence cet espace-là. C'est-à-dire que moi, le truc qui me souffle dans Panic Room, c'est qu'un huis clos, ça te fait toujours chier un moment. Il y a toujours un moment où tu te dis, ça traîne la patte, les personnages sont coincés dans une pièce, ou tu sens que le film ne sait pas trop comment rebondir, comment redémarrer. Là, Panic Room, ce n'est jamais le cas. Il n'y a pas un bout de gras dans le film. Et pourtant, ce qui est le plus dur, c'est qu'il arrive sans que ça me paraisse trop artificiel, ou alors justement ça l'est tellement que ça finit par ne plus l'être, à tellement te poser les plans de l'espace et à te dire il y aura tel plan là, tu raccordes à tel autre truc, donc tu te dis ok, donc le personnage doit faire ça puis ça s'il veut accéder à telle pièce, il y a l'ascenseur là, il y a l'escalier de l'autre côté, l'escalier est sur 3 étages, très bien. Où se positionne chaque pièce, c'est super dur, je trouve, de spatialiser un espace de cinéma comme celui-là. Et surtout, de le spatialiser pour te donner la sensation que tout peut se dérouler dans cet espace-là, que chaque centimètre carré peut être utilisé par la caméra, déjà pour que la caméra s'y installe, mais aussi pour que tu puisses y mettre des situations. Et là, le film, y compris dans la panic room, qui pourtant ne représente que quelques mètres carrés, t'as la petite ouverture qui donne sur l'extérieur où elles essaient d'utiliser la lampe torche, t'as les écrans, t'as la bouche d'aération dans laquelle ils essaient de faire passer le gaz, enfin t'as 10 000 trucs qui servent dans le film, et c'est moi cette sensation que j'ai qui fait que le film se renouvelle en permanence, pourtant dans un espace clos, et très peu de films qui arrivent à faire ça en fait, et qui arrivent à le faire bien. Le huis clos, je trouve que c'est vraiment des trucs les plus casse-gueule à faire bien au cinéma, et c'est pour ça que pour coup Panic Room est un film que j'adore autant, parce que, et je trouve qu'il est loin d'être mineur dans la filmo de Fincher, parce que cette prouesse-là, elle est très très difficile, et pour le coup peut-être qu'il regrette aujourd'hui la prévise, mais je pense que sans... il n'aurait pas pu atteindre ce degré de précision dans le découpage qui est absolument fantastique.
Mais tu vois, on en revient beaucoup, je trouve, à finalement admirer ou chanter ses louanges à travers le making-of des films et tu vois, la technique qu'il y a derrière, plutôt qu'à travers le résultat lui-même. Enfin si, parce que vous aimez beaucoup le résultat aussi. Mais voilà, c'est vous êtes, enfin, à vous entendre, hein, vous deux, vous êtes au moins autant dans l'admiration de la fabrication que du résultat, quoi. Et oui. Mais, ouais, mais alors, c'est bien qu'il ait été précurseur dans les prévises, mais bon, bah, ça
alors, pour le coup, ça dépend, je pense, de plusieurs trucs. Déjà, je pense très sincèrement que Fincher, dans son perfectionnisme, fait aussi que ses éditions vidéo, qui en plus ont émergé pour la plupart de ses grands films au moment de l'émergence du DVD, a fait qu'il a des éditions vidéo absolument passionnantes avec des super making-of dans tous ses films. Donc je pense qu'effectivement, moi déjà, j'ai une grande fascination, notamment pour le making-of de Panic Room, qui est génialissime, et dans lequel tu vois en plus tous les problèmes qui sont... Parce que, en fait, il n'y a aucune prod de Fincher qui s'est bien passée, hein, mine de rien, il y a toujours des problèmes pas possibles. Et pareil pour Fight Club, qui avait une édition vidéo absolument brillante à sa sortie, et notamment sur tous l'utilisation déjà d'ailleurs des faits numériques que tu as, notamment quand il sort de la poubelle avec le gobelet Starbucks, avec la caméra qui passe en travelling arrière. Enfin, t'as énormément de trucs qui sont... Ouais, c'est une ouverture. Je pense qu'effectivement, quand tu aimes le cinéma et que potentiellement d'ailleurs tu découvres le cinéma avec des cinéastes comme Fincher, je pense qu'il y a une fascination pour la technique. Et... mais en fait, je pense que ça n'empêche pas l'émotion derrière. Je pense qu'il y a tu peux avoir la fascination pour le vernis que ça a, ça c'est clair. Mais encore une fois, moi je pense qu'il y a toujours le moment où ça dépasse ça en fait.
Ouais, en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tu vois Panic Room, pour revenir rapidement sur Panic Room, c'est que c'est un scénario très 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 simple, hein, c'est juste un home invasion quoi. Mais que je pense que personne n'aurait été capable de lui offrir tant de valeur visuelle. En fait, parce que c'est littéralement une série B, mais Fincher en fait pas une, enfin, en fait toujours une série B de manière scénaristique. Ça reste un film très simple à suivre, basique, voilà. Dans l'avancée des personnages, il y a pas de surprise. Bon, on se doute comment ça va finir, etc. Mais visuellement, c'est genre, tous les personnages ont du sens visuellement. Ils apportent quelque chose au cadre. Le cadre apporte quelque chose au personnage. Littéralement, la Panic Room raconte quelque chose du personnage aussi. C'est littéralement une personne, Jodie Foster, qui est incapable d'affronter ses peurs et qui se retrouve enfermée dans un endroit où elle n'aura qu'une seule façon de les... Enfin, qui va devoir absolument les affronter parce que sinon, elle ne peut pas s'en sortir. Donc, elle va devoir les affronter avec des choses qu'elle déteste, c'est-à-dire la technologie, d'ailleurs. Hein, elle veut à la base débrancher à la Panic Room. Heureusement qu'elle ne l'a pas fait, d'ailleurs. Sinon, pas de chance. Bon, au pire, ils auraient perdu l'argent, quoi. En vrai, quand tu réfléchis, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas quand même énormément d'enjeux. Mais... moi, je trouve ça brillant. Comment c'est un peu pareil pour The Killer, qui, je pense, se fait massacrer un peu
par une partie de la critique,
par une partie de la critique, par rapport au fait que c'est en effet un scénario très basique. Mais je pense que peu de monde pourrait réussir à faire un film qui va accrocher quelque chose à chaque fois visuellement d'aussi fort ou d'aussi précis. Peut-être que le plus remarquable, même si moi je ne suis pas spécialement fan d'action, mais toute la scène d'action qui se passe en Floride dans le chapitre 4,
C'est brillantissime.
C'est excellent dans la manière dont il filme l'action et donc, encore une fois, met en symbiose le personnage et le mouvement de la caméra, mais d'une manière très violente, en jouant encore aussi avec la caméra épaule pour une fois, et à d'autres moments est capable de capter sa précision, notamment le premier plan qui vient littéralement mettre le personnage de Fassbender dans une sorte de symétrie très kubrickienne où il est maître de son plan, enfin maître de l'espace dans lequel il est, alors que la caméra à la base vient justement le recentrer. Il y a toujours quelque chose qui vient se passer dans la caméra de Fincher, je trouve, dans la signification des plans, des cadres, et c'est ça qui me marque perso.
Puis je pense que ça ramène à quelque chose qui est à la vision qu'on a du cinéma ou pas. Moi je sais que par exemple, c'est un truc qui est personnel et on peut y adhérer ou pas. Moi je préférerais toujours une bonne exécution d'un scénario moyen à un scénario brillant mal mis en scène.
Absolument,
tu vois.
Oui.
Et je pense que Fincher, c'est l'exemple, je dirais pas que c'est l'exemple typique parce qu'il a souvent des très grands scénarios et des scénarios sur lesquels d'ailleurs lui-même collabore énormément pour y apporter toujours le sens du détail aussi dont il a besoin. Mais je pense que justement sur un film comme Panic Room ou The Killer, c'est l'exécution qui fait aussi le film et qu'on y adhère ou pas. Tu vois, je pense d'ailleurs que pour moi l'élément le plus évident de ça, c'est que l'association parfaite dans le cinéma de Fincher, c'est évidemment sa rencontre avec Aaron Sorkin sur The Social Network, mais par la suite Sorkin a fait quasiment que mettre en scène lui-même ses propres scénarios. Et bon, bah, y en a que je trouve très cool, hein. Tu vois, j'aime beaucoup Being the Ricardos et Les 7 de Chicago, mais par exemple Le Grand Jeu, tu te dis mais si Fincher avait fait ce film là putain quoi, le truc aurait une toute autre gueule et le côté très didactique du scénario aurait sans doute été transcendé par une mise en scène beaucoup moins illustrative et qui amène un sens supplémentaire ou un tu vois justement un petit, en fait je trouve que derrière la perfection tu peux te dire il y a ça, mais comme on en parlait sur The Killer avec le sens caché qu'on peut y voir, je trouve qu'il y a toujours un truc à chercher. Après on peut trouver ça, effectivement, la distance qu'il crée peut faire qu'on y est hermétique et ça, après, je peux totalement le comprendre.
Oui.
Mais j'avais envie de rebondir sur un truc, justement, parce qu'on pour un peu donner un exemple concret de ce qu'on disait là sur cette façon de coller vraiment un personnage, je trouve qu'il y a un exemple qui, moi, me parle beaucoup de... En fait, ce dont parle Fincher, finalement, c'est comment un personnage se comporte dans l'espace et le temps à un moment donné. Et je pense que c'est ça qui fait que soit t'es fasciné ou pas par ce qui se passe, mais moi, pour le coup, c'est ce qui marche extrêmement bien sur moi. Et là, en revoyant des films, j'ai fait le lien avec une scène de Millennium et de Zodiac. Dans Millennium, t'as donc le moment charnière du film où Michael pénètre dans la maison de Martin, donc le personnage de Stellan Skarsgård qui s'avère être le tueur. Et donc Stellan Skarsgård rentre chez lui, lui essaie de fuir, et quand il revient, enfin il voit Michael dehors et lui dit oh, viens on va prendre un verre, et à ce moment-là Michael sait que c'est la merde, il sait que le mec est sur lui, qu'il a compris, mais il rentre quand même. Et donc le personnage, évidemment, le piège, sort un flingue et lui dit bah, en fait vous rendez compte quand même de la facilité avec laquelle vous avez accepté la situation juste parce que je vous ai proposé un verre par politesse. Vous avez accepté la lenteur. J'ai jamais besoin de faire un acte violent ou rapide pour choper une de mes victimes, parce qu'en fait, par peur, vous savez que le danger est là, mais par lenteur, vous venez quand même. Et t'as une séquence similaire dans Zodiac, pour moi, l'une des meilleures séquences de Zodiac, le moment où le personnage vient voir un mec pour un témoignage et où il se dit pendant une petite seconde, est-ce que c'est pas lui le tueur, puisque il savait que le tueur du Zodiac avait une cave, a priori, selon des témoignages, et certains contenus des lettres. Et où ils savent, depuis le début du film, c'est acté qu'il y a peu de caves en Californie. Et soudain, le mec lui dit « Bah, vous avez qu'à venir voir, j'ai un truc à vous montrer, être dans ma cave. » Donc, j'ai déjà été un truc que t'as pas trop envie d'entendre quand tu visites la maison d'un inconnu. Et le truc s'annonce, et tu vois juste le personnage qui, à ce moment-là, comprend, se retourne vers lui, il dit « Il y a peu de caves en Californie. » Et le mec lui dit « Moi, j'en ai une. » Et juste après, t'as la lenteur de l'action qui suit, où lui descend inexorablement l'escalier, où tu te dis « Mais en vrai, tu pourrais te dégager, tu pourrais fuir, mais il y va quand même. » Et c'est toute la lenteur de la scène et le tempo que met Fincher dessus qui rend le truc absolument glaçant.
Alors justement, pour revenir un peu sur cette froideur et cette mise à distance qu'il y a dans sa mise en scène, même si je ne suis pas forcément sensible aux mêmes aspects que vous, il y a quand même quelques cas de figure dans lesquels où je trouve que justement ce point de vue est particulièrement pertinent et en tout cas moi me touche. Et c'est très spécifique, mais c'est notamment dans la mise en scène des séquences de meurtre. Je me rappelle notamment quand j'ai vu Zodiac, qui pour le coup est quand même un de mes Fincher préférés aussi, je pense, Je me rappelle notamment que le meurtre, enfin la scène de meurtre du couple dans l'herbe là, qui se fait son petit déjeuner sur l'herbe près du lac, je l'avais trouvée extrêmement violente. Pourtant, il y a pas de sang, il y a très très peu de sang. Enfin voilà. Mais en fait, elle est mise. Déjà, il y a aucune musique. Et en fait, on est vraiment dans l'aspect extrêmement concret de bah voilà, t'as ce couple qui fait rien là sur l'herbe, et puis un type vient leur demander de se ligoter, et bah petit à petit, bah voilà, il va juste se mettre à les poignarder. Point barre. Et en fait, la scène est longue parce que la scène est faite de telle manière que t'as l'impression qu'ils vont s'en sortir. Enfin, tu sais qu'a priori ils vont pas s'en sortir, mais le film te donne l'impression que si, parce que d'abord ils voient le mec arriver, puis ils voient plus le mec, puis ils revoient le mec, puis le mec s'adresse à eux, dégaine un flingue et leur demande de se ligoter. Tout ça c'est long, et en fait tu sais pas pourquoi c'est si long, si c'est pour qu'ils s'en sortent pas. Donc c'est bizarre la façon dont effectivement bah ils ne s'en sortent pas. Et en fait au moment où ils se font poignarder, on n'insiste absolument pas du tout sur les blessures, et on est vraiment dans la répétition des coups du tueur qui sont très froids et qui sont genre, bah oui, juste une personne hurle au moment où un couteau s'abat sur elle. Et on est dans cette espèce de simplicité de la mise en scène du meurtre qui en fait rend la chose extrêmement réaliste. Et c'est vrai que moi j'ai rarement eu autant l'impression de réellement voir des personnes se faire poignarder que dans ce film. Pourtant, bon, j'aime les films d'horreur, j'en ai vu des tas, des images de gens qui se font poignarder. Et donc je trouve que souvent il propose de nouvelles choses pour justement mettre en scène les meurtres et instaurer cette distance qui va créer l'effroi, qui va créer l'horreur. Donc dans Gone Girl par exemple, la fameuse scène où elle tue le personnage de Neil Patrick Harris, il y a ces espèces de fondu au noir tout le temps, avec l'espèce de whoosh, la fin de drone.
J'avais complètement oublié, dans mon souvenir c'était tellement plus froid. Justement, je me souvenais du fait que c'était que des plans fixes et qu'il y avait quelque chose d'extrêmement glacial dans la rapidité avec laquelle ça se déroule et que le sang se répand mais super vite. Et j'avais complètement oublié qu'il y avait des fondus au noir dans ce truc là qui ont un effet purement clipesque pour le coup, mais qui en fait ajoute totalement à la froideur de la séquence.
Bah complètement. Donc ça c'est pareil, c'est une autre manière, enfin c'est une manière de couper l'image, c'est une autre manière de mettre à distance. Dans The Killer par exemple, quand il tue le personnage de Tilda Swinton, c'est pareil, on a un gros plan pour le coup sur l'impact de balle ou un truc comme ça.
Ouais.
C'est une autre manière de rendre la chose tristement concrète et simple et en même temps inéluctable et fatale, et c'est pareil de remettre de la distance. À quoi d'autre je peux penser aussi, bah dans Panic Room par exemple, le fameux meurtre de Jared Leto qui est si satisfaisant, c'est parce que il débarque au milieu d'une conversation de manière extrêmement rapide, et c'est pareil, c'est pas annoncé, c'est pas, donc à chaque fois c'est des idées différentes qui vont trouver le moyen de rendre les meurtres choquants sans les rendre spectaculaires pour autant.
Ouais.
Et ça, pour le coup, c'est dans ces moments-là que sa froideur me touche vraiment et qu'elle a un véritable effet sur moi.
Ah, tu vois, dans Panic Room, j'avais oublié je me souvenais de... Je me disais, ah, ça arrive. Mais je me souvenais plus à quel point il le rendait surprenant, tu vois, à quel point, en fait, le flingue sortait de nulle part, voir si on voyait, si le coup de feu arrivait sans même qu'on voit le flingue. Et en fait, là où il est très malin, c'est qu'en fait, il te le prépare de ouf. C'est-à-dire que t'as Forest Whitaker dans son coin du plan, t'as du vide à côté... T'as Dwight qui, enfin de, pardon, Raoul qui débarque. Raoul qui débarque à côté de lui. Et en fait, il y a un vide dans le plan. Et tu sais, qui est un peu gênant, justement. Tu vois, ce truc où là, il est brillant en termes de cadrage, parce que tu dis, il y a un truc dans le cadrage qui va pas, en fait.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Et en fait, c'est jusqu'au moment où le cadre est rempli par le flingue qui débarque dans le plan. Et là, tu fais... Ah! Et en fait, t'as à peine le temps de te dire, ah, il a sorti le flingue, il a déjà tiré, et c'est fini, quoi. Et c'est le genre de moment où, effectivement, parce qu'il te l'a préparé, il y a une sorte de froideur un peu même sadique, finalement, parce que tu vois, lui s'en amuse, c'est un jeu, quoi, à ce moment-là, mais c'est tellement bien pensé, c'est tellement. Et en fait, tu te fais complètement avoir par ce truc-là, et moi, je pense que c'est l'effet que tu aimes te faire avoir par cet effet-là.
Moi, j'aime beaucoup aussi la manière dont il montre les meurtres. Qui a aussi un peu évolué, je pense, par rapport à Seven, qui était quand même presque complaisant dans la violence du tueur, d'une certaine manière, à montrer vraiment la violence frontalement, des meurtres vraiment horribles, notamment, enfin, même pas des meurtres d'ailleurs, parfois juste de la torture, notamment du gars pour la paresse, là, qui...
traumatisme pour tout le monde, je pense. Celui-là, vraiment, le mec qui se réveille d'un coup en jumpscare. Je crois que c'est vraiment un des meilleurs jumpscares de l'histoire du cinéma, quand même, parce que tu t'y attends tellement pas de Brad Pitt qui se rapproche. Tu dis, bon, bah, il trouve des cadavres depuis tout à l'heure.
Pour le coup, c'est pas Brad Pitt, en plus, c'est un des GIGN de là-bas. Je sais pas comment
ils appellent ça. Vraiment, tu t'attends tellement. Là, c'est le meilleur moyen de baiser le spectateur quand tu lui dis, tu vas voir des. Enfin, les meurtres ont déjà eu lieu, et en fait, non, le mec est pas mort, il fait genre. Et c'est tout, et ça suffit à créer ce truc, mais moi ça m'a traumatisé à l'époque.
Et après, oui, c'est ce que tu disais par rapport à Tilda Swinton, dont on voit très furtivement, vraiment, comme, quasiment comme une image subliminale, cet impact de balle qu'elle reçoit dans la tête. T'as la même chose avec l'avocat, où on a un insert très rapide sur les clous qui lui rentrent dans le torse. Vraiment, genre. Ouais, c'est filmer la mort, genre exactement. C'est à ce moment-là, c'est fini, quoi.
Ouais, c'est comme un pansement qu'on arrache. C'est genre, t'as à peine le temps de comprendre ce qu'on te montre, bah c'est déjà fini, c'est trop tard, tu peux plus réagir.
Ce qui est d'ailleurs rigolo, parce que le temps lui manque dans ce genre de cas, où notamment il tue l'avocat en se disant c'est bon, le mec il a le temps, il y a 8 minutes de souffrance, donc il a le temps de me sortir le truc, et le mec crève direct.
mais ce qui est hyper intéressant aussi par rapport au personnage, c'est un personnage qui pense contrôler absolument tout, comme pour d'ailleurs le chien dont il va donner des somnifères en disant bah elle fait 20-25, en fait j'ai l'impression qu'elle fait un peu plus que ce que je pensais. Et oui, puisqu'à la fin elle se réveille beaucoup trop tôt pour lui, et peut-être qu'il pensait le tuer plus rapidement,
il pensait sortir plus vite aussi,
mais clairement il a pas pris de rap, quoi. Le chien il débarque direct, et ça raconte aussi quelque chose du personnage de mal, enfin vis-à-vis de son contrôle fric qu'il voudrait avoir, et qui complètement le perd par rapport à une forme d'humanité qui revient en lui, ou justement sa perversion, enfin son côté très sentimental qui va revenir l'empêcher d'être parfait dans son exécution. Et non, moi je suis d'accord avec vous, j'adore la manière dont il filme la mort de personnages gentils ou pas gentils d'ailleurs. Et ce qui est un très, très intéressant aussi par rapport à ce qu'on disait sur l'omniscience, dans Zodiac, il n'y a pas vraiment d'omniscience, justement, il y a quasiment l'inverse de l'omniscience, d'autant plus que les seuls meurtres qu'on voit, parce qu'au final on n'en voit pas tant que ça, on voit le premier meurtre du début, dans la voiture avec le jeune couple. Ensuite, le deuxième couple sur le lac, et il y en a un troisième.
Il y a le taxi que tu vois.
Voilà, il y a le taxi. Mais ce sont les seuls meurtres qu'on voit à l'écran dans le Zodiac, parce qu'il a tué beaucoup plus de personnes, a priori. Ce sont ceux sur lesquels on a des témoignages. Ce qui est une forme de non-omniscience totale, puisqu'en fait, le film veut essayer de te retrouver qui c'est, mais on ne peut pas, en fait. La caméra ne sait pas tout, elle n'imagine rien, en fait. Elle ne relate que ce qu'on sait, tout ce qui est factuel.
T'as une impuissance. Et en fait, je trouve que c'est tout le paradoxe du cinéma de Fincher, d'être dans le contrôle permanent, mais pour accepter quand même, au final, notamment à travers son nombre incalculable de prises, parce que c'est aussi sa méthodologie, d'accepter une forme de perte de contrôle et d'incapacité de l'image à représenter quelque chose. Et je pense que là-dessus, le numérique et le contrôle total que le numérique lui donne sur le moins de centimètres carrés d'image, sur le moins de pixels d'image d'ailleurs, hein, pour le coup, c'est assez contrasté par des Zodiacs d'ailleurs, cette envie de ne pas te montrer certaines choses. Parce que même, tu vois, Millennium, c'est de ça aussi dont ça parle, c'est de parler d'une absence, d'un personnage qui a disparu, mais on ne sait pas comment, parce qu'on n'a jamais retrouvé de corps. Il y a ce truc qui manque, l'image manquante en fait, et même dans Manque, enfin tu vois, ça revient aussi dans Manque finalement, de traiter d'une histoire qui a été témoignée mais que tu recrées pour parler des coulisses d'un des plus grands films de l'histoire du cinéma.
Pour juste donner un contre-exemple sur ce que vous dites sur l'omniscience, enfin qui reprend en fait tout ce qu'on est en train de dire sur l'omniscience et sur la mise à distance de la mise en scène de la violence, moi il y a une séquence que j'aime pas, c'est dans Benjamin Button, qui est un film qui m'accroche pas non plus, voilà, avec lequel j'ai des problèmes. Mais c'est la scène du coup de l'accident de voiture qui clouera le personnage de Daisy Holly, donc elle est pas morte, mais bon, voilà, elle pourra plus danser. Voilà, et parce qu'évidemment c'est une cool girl et qu'elle fait de la danse classique et qu'elle est toujours bien coiffée.
Oh, bref. C'est tiré d'un livre quand même.
C'est pas une excuse.
Fitzgerald, c'est vraiment le début, c'est vraiment le tout début de l'histoire. Hein.
Oui, mais bon. Mais pourquoi ne pas s'en servir?
Non, mais je veux dire, c'est le tout début du film Benjamin Button. La nouvelle de Fitzgerald, c'est très très court.
De toute façon, là, oui, c'est 60 pages.
Quand t'adaptes un livre, t'es pas obligé d'adapter ses défauts. Hein, ou non, tu fais une œuvre à part entière, malgré tout. Mais
absolument. L'adaptation n'est pas une.
Mais donc, cette scène de l'accident, là, c'est là aussi que, du coup, il y a un peu de sadisme, du coup, chez Fincher, c'est que, du coup, il prend énormément le temps de l'annoncer, de le surannoncer, donc avec ce montage alterné, qui nous explique d'abord tout ce qui aurait pu bien se passer dans la journée pour que la fatalité de cet accident ne se produise pas, où Fincher parle de, bon, et si telle nana n'avait pas rompu avec son copain, elle aurait pas livré telle chose en retard à tel personnage qui n'aurait pas pris sa voiture à tel moment, blablabla. Et en fait, ce que je trouvais assez intéressant, là, en le revoyant, parce que je me rappelais pas de ça, c'est qu'en fait, tout ce montage alterné qui montre en parallèle Daisy qui s'apprête à sortir de l'opéra et qui donc va rencontrer la route de cette voiture, c'est que d'abord, il explique tout ce qui aurait pu bien se passer pour que l'accident se produise pas. Il montre la scène, en fait, ce à quoi elle aurait ressemblé si l'accident ne se produisait pas. Et en fait, à partir de là, ça fait déjà longtemps qu'on a compris qu'en fait, que l'accident aurait lieu. Et en fait, j'aurais trouvé ça très intéressant qu'il reste sur cette image. Et qu'en fait, on sache par ailleurs, parce que de toute manière, on la voit dans son lit d'hôpital, que l'accident a eu lieu. Et en fait, ça fait trois plombes qu'on a archi compris ce qui se passait, mais il veut quand même remontrer la scène telle qu'elle s'est passée et montrer l'accident. C'est tellement... Là, vous voyez, je trouve qu'on est vraiment dans le zèle un petit peu sadique aussi, et inutile, où je me dis, là mec, t'en fais trop, quoi.
Bah, c'est peut-être l'excès... Alors, pour le coup, je dois me repentir, parce que je pensais que Benjamin Button était le Fincher que j'aimais le moins avec The Game... Et au final, en le revoyant, j'y ai vu beaucoup de choses que j'y ai pas vu, je pense, étant plus jeune. Mais je trouve que le film souffre clairement de ses longueurs. Et effectivement, je pense qu'il y a pas mal de passages comme ça où le film en fait un peu trop. Mais je comprends totalement ce que tu veux dire. Mais pour le coup, je trouve la séquence tellement forte que j'arrive à lui pardonner ce trop-plein. Mais je pense que, de toute façon, c'est plus ou moins ce qu'on peut voir comme un défaut chez Fincher ou comme sa plus grande qualité. À partir de Zodiac, et donc je pense que Benjamin Button en est peut-être même d'ailleurs le film le plus évident là-dedans. C'est un film du trop-plein, parce qu'il y a tellement de choses à mettre en scène, il y a tellement de choses à montrer, il y a tellement de choses à tellement de situations à dépeindre, parce que finalement c'est un peu son Forrest Gump à lui, hein, si je devais le résumer de manière un peu vulgaire.
Scénarisé par Eric Ross, hein, donc ouais, voilà. Le scénariste de Forrest Gump.
Voilà, t'as ce même truc de suivre quasiment de manière illusoire la vie presque complète d'un personnage qui en plus là est dans le paradoxe de vivre sa vie à l'envers. T'as l'impression qu'il y a un trop tout le temps, quoi. C'est d'ailleurs le moment où moi le film me perd un peu, tu vois, vers le milieu où je me dis bon, vas-y, passe à la suite, quoi. Et où limite, moi je suis beaucoup plus intéressé par le moment où il y a une vraie relation qui se tisse avec le personnage de Daisy, donc joué par Cate Blanchett, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est le quotidien qui passe ensemble et de savoir pertinemment que ça leur file entre les doigts, en fait. C'est plutôt que les moments un peu de vie héroïque pendant la guerre et tout ça qui, moi, me saoule gentiment dans ce film-là.
Moi, je trouve que le film est magnifique, ce qui prouve que David Fincher a à cœur, d'ailleurs, ce film. Mais non, en plus, c'est je pense que donc la petite séquence dont tu parles sur... les conséquences de les causes de chaque conséquence, etc., machin, tout ça, c'est plus du déterminisme que du fatalisme. Ce qui est du coup intéressant, c'est que c'était écrit, mais que les personnages peuvent influer sur leur propre destin au fur et à mesure, contrairement au fatalisme où c'est comme ça, quoi que tu fasses, ça va tomber. Et c'est ça que je trouve assez joli, c'est qu'au final ils avancent chacun de leur côté, mais au fur et à mesure ils vont réussir à se retrouver, qu'ils le fassent exprès ou qu'ils ne le fassent pas exprès. Et c'était écrit qu'ils allaient se retrouver, mais ils n'ont rien fait pour forcément se retrouver. Donc le fait qu'elle... moi, je trouve ça très beau, voilà, c'est tout. Enfin, je ne sais pas trop quoi dire sur Benjamin Button à part ça.
Le film qui... Moi, tu vois, je trouve que Fincher parle souvent de cette idée de, tu vois, justement de l'horreur qui frappe, mais de manière un peu différente. Et je pense que dans Benjamin Button, il y a vraiment cette idée du temps qui te frappe. Et que là aussi, tu essaies de capter dans toute sa... toute la perfection de l'imperfection du temps qui va de toute façon te modifier, ne serait-ce que ton corps, et où là, de suivre aussi précisément des personnages qui justement font des gestes, font des choix de vie qui les amènent dans une direction différente. En fait, il a jamais autant traité ça à une échelle aussi grande. C'est-à-dire que d'habitude, t'es tellement focalisé sur un personnage à un instant précis que ça influe sur le déroulé de la scène, sur le déroulé d'un dialogue, sur une action qui peut avoir d'ailleurs valeur de vie ou de mort dans le cas d'un thriller ou d'un truc comme ça, mais il a jamais fait de truc où t'as l'impression, tu sais, de voir le livre dont vous êtes le héros, ou selon la micro-action qu'il a captée de manière ultra précise, voir Brad Pitt faire, ça peut avoir une incidence énorme sur le déroulé de sa vie, parce qu'il va d'un coup se dire, bah, en fait, je vais faire ça, et ça... T'as vraiment cette sensation de passer le film à te dire, en fait, le film pourrait avoir une réalité alternative permanente, où il se passerait ça au lieu de ça, au lieu de ça. Donc, ce qui donne finalement, je trouve, une valeur particulière à la scène avec Daisy, dont tu faisais référence, Judith, parce que, pour moi, le cœur du film est un peu là, en fait. Le film passe son temps à dire, et si, Et notamment, évidemment, la question majeure, et si Benjamin Button était né de manière normale et pas, n'était pas né vieux pour mourir que tel un enfant, enfin tel un bébé dans les bras de celle qu'il a toujours aimé. Ce qui est, pour le coup, j'avoue, une image que j'avais un peu oubliée, mais à la fin, j'ai tiré ma petite larme. J'avoue que j'étais un peu, un peu fébrile.
Ah, il est déprimant comme film de toute manière, mais voilà, moi je le trouve pas si émouvant que ça, mais par contre bien déprimant. Et non, juste, je suis obligée de mentionner que l'année d'avant, il y a L'homme sans âge de Francis Ford Coppola qui est sorti avec Tim Roth, que évidemment, alors, qui est imparfait, mais que je préfère largement, évidemment. Mais juste, j'ai de la peine pour Coppola parce qu'il a sorti donc L'homme sans âge un an avant Benjamin Button, il a été complètement éclipsé et il avait déjà sorti Peggy Sue s'est mariée un an avant Retour vers le futur et il s'est complètement fait éclipser aussi sur la même thématique exactement. Et voilà, bah, c'était un mot pour Francis. Pardon.
Non, mais ça donne envie de le voir du coup.
Mais tu vois, c'est marrant que tu parlais de cet exemple là parce que je trouve qu'il amène moi une figure de style que je trouve intéressante chez Fincher qui est celui du montage alterné. Parce que finalement, on parlait beaucoup, tu vois, de la maîtrise totale que Fincher a, mais ce qui amène cette notion de jeu, voire de sadisme dont tu parlais aussi, et c'est là où je trouve qu'il y a une ambiguïté qui m'amuse en fait, parce que quand je parlais du côté ludique qui moi me plaît énormément chez Fincher, j'aime me faire un peu avoir, j'aime savoir d'avance en fait que le mec va un peu me manipuler et qu'il a un peu le sourire narquois derrière, ce qu'il n'hésite pas à dire d'ailleurs, ce qu'il dit aussi que c'est une des thématiques majeures de son cinéma, de parler de à quel point on est sadique nous-mêmes en tant que spectateur et que c'est aussi ça qui nous amuse d'avoir notamment Seven ou Fight Club. Mais il y a plusieurs, dès Alien 3 d'ailleurs, tu vas en parler des figures de style déjà présentes dans Alien 3, mais dans Alien 3 t'as ce truc pas très finaux j'entends, mais très efficace ma foi, entre la séquence de crémation des personnages de Newt et de X, les personnages qui accompagnaient Ripley dans le deuxième film, et la naissance de l'alien en parallèle, donc qui fait vraiment l'alternance entre les deux, et puis plus tard qui reviendra quand il fait l'appareil, l'alternance dans les différents couloirs où les personnages agissent en simultané, et où t'as déjà chez Fincher sa grande gestion de l'espace qui se fait de manière très logique. Mais il y a un exemple que je trouve encore plus pernicieux et que je trouve très réussi dans Millennium, où juste avant justement que l'horreur ne frappe et que Martin ne soit affirmé comme étant l'antagoniste et donc pourrait agir et faire du mal à soit Michael soit Lisbeth, les deux personnages sont justement séparés. Lisbeth étudie des preuves dans les archives de la société qui appartient donc au père de Martin, et Michael lui est en train de faire ses révélations de son côté dans le petit chalet qu'ils ont, et tu sais pas où le mal va frapper parce que le garde qui est censé surveiller les archives disparaît et passe à un moment donné en arrière-plan pendant que Lisbeth est en travelling à être suivie dans les couloirs, et tu dis peut-être que la menace peut circuler d'un moment à l'autre, et parce qu'il ne cesse d'alterner entre les deux, tu te dis, je sais qu'il y a un truc qui va se passer, mais je sais pas quand ça va arriver, et ça n'arrive pas au moment où tu l'attends. Et je trouve l'idée assez, assez merveilleuse. Mais généralement, le montage alterné chez Fincher est assez, assez malin comme ça.
De toute façon, j'ai envie de dire, David Fincher est très malin. Mais, en vrai, Millennium aussi, d'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point les films de Fincher sont souvent... pour en revenir un peu à Panic Room, le fait que ça soit une série B qui soit reléguée à une série B, pareil The Killer, etc., Millennium a été relégué assez rapidement en juste un film d'enquête classique avec d'un côté une marginale un peu et de l'autre un journaliste avec des méchants, etc. Et une histoire assez basique, mais en vérité c'est un immense film sur plein d'éléments, quoi. Et la manière dont c'est raconté, ce que tu racontes sur le montage alterné qui clairement est vraiment au cœur de sa deuxième partie de carrière à mon avis, hein, parce que t'as Zodiac, clairement des montages alternés entre Robert Guy Smith, le journaliste de Jay Gyllenhaal, et le duo de flics, et en même temps les meurtres du Zodiac, donc il y a vraiment trois temporalités. Ensuite t'as Benjamin Button avec Benjamin Button et Daisy de l'autre, t'as The Social Network qui globalement se passe dans plusieurs qui suit le même personnage de Mark Zuckerberg mais sur trois temporalités différentes, donc il y a des montages alternés très régulièrement parce que les séquences se chevauchent quand ils revoient leurs souvenirs pour expliquer lors des procès ce qui s'est passé. Ensuite, à Millennium. Ensuite, à Gone Girl, qui n'a pas tant de montage alterné, mais qui est coupé en deux, littéralement, avec d'un coup, la première partie avec Ben Affleck, la deuxième partie avec Amy, et ensuite, une sorte de troisième acte où tout se rassemble et tout se lie. Et enfin, t'as The Killer... un peu différent parce que lui pour le coup on suit un seul personnage et c'est rapido, et t'as Mank qui pour moi est le film le plus complexe de Fincher dans sa narration et peut-être le plus abouti par rapport à ce qu'il veut faire vis-à-vis de Citizen Kane. Je sais que le film est très mal aimé D'ailleurs, on l'a vu dans Discord, c'est le film le moins aimé de notre Discord. Mais c'est un film qui raconte énormément de choses dans son montage par rapport au parallèle qu'il veut faire de Citizen Kane, qui lui-même était monté de manière très... Enfin, par rapport aux souvenirs des personnages qu'il rencontrait dans son enquête pour savoir ce que signifiait Rosebud. Enfin, non, mais c'est excellent. Et puis, c'est intéressant de voir qu'il a changé de monteur avec le temps. Au début, je ne sais plus qui est son monteur, mais je crois qu'il change régulièrement. Après, il y a Angus Wall avec qui il a beaucoup travaillé, notamment sur The Social Network, sur... Non, Social Network, je ne sais plus qui... Enfin, je crois que The Social Network fait la bascule où il travaille avec Angus Wall et Kirk Baxter en même temps. Et après, maintenant, c'est que Kirk Baxter. Et pourtant, il y a toujours cette même limpidité dans la manière de raconter les personnages, de raconter deux histoires en même temps, mais enfin, deux personnages en même temps, mais qui sont liés par la même histoire et qui, peu à peu, vont avancer pour se retrouver et former un tout d'une cohérence assez impressionnante.
Et d'y ajouter une ironie. Moi, pareil, il y a le début de The Social Network joue énormément là-dessus, avec en parallèle la création de FaceMash et du coup le Final Club, donc ces espèces de clubs de mecs à Harvard ultra mascu, ouais, qui dans lesquels veut absolument rentrer le personnage de Mark Zuckerberg en intro. Au moment où il crée FaceMash, tu es en parallèle sans trop comprendre ce que c'est au départ, ce bus de meufs qui arrive et qui en fait arrive à une soirée de Final Club pour au final devenir justement, bah de toute façon c'est même très belles femmes mais réifiées au possible qui ne deviennent plus que des portraits de meufs sexy qui apparaîtront sur FaceMash au moment où est en train de le créer Zuckerberg. Et t'as ce parallèle très ironique que crée le film à ce moment-là entre ces diverses images dont au départ tu ne comprends pas trop le lien pour finalement te dire en fait ce qu'a créé Zuckerberg, il a toujours fantasmé les Final Club et ce qu'il a créé avec Facebook c'est finalement la version améliorée de ça en fait, mais avec la même dynamique de meute qui est en plus foncièrement assez misogyne et très mascu dans l'esprit. Donc il y a déjà tout cet esprit-là que je trouve assez génial là-dedans. Mais peut-être pour revenir à ce que tu disais là sur Mank notamment, qui est effectivement un film dont on parle finalement peut-être trop peu, mais il y a un autre film dont on a peu parlé, c'est The Game aussi. Mais ça amène peut-être à ce truc-là aussi, c'est que finalement on a beaucoup parlé tu vois, de la distance que Fincher crée, mais en fait il n'empêche qu'il crée un jeu permanent avec le spectateur. Il cherche quand même toujours à l'impliquer dans son processus de mise en scène, notamment bah, évidemment les cas évidents de Seven et de Fight Club où tu es censé finir un peu sur le cul par le twist final, mais aussi finalement il parle de cinéma toujours.
Ouais, moi c'est alors The Game, pour rappeler vite fait, c'est donc il y a Nicolas Van Orton, donc c'est un homme d'affaires un peu qui se la pète quoi. Et un jour il y a son frère Conrad qui lui apporte qui lui offre un cadeau et qui s'avère être une sorte de jeu. Et il accepte d'aller le faire, d'aller voir ce que c'est pour changer, parce que son frère lui dit que c'est vraiment une expérience très intéressante. Sauf que petit à petit, il ne comprend plus s'il y a des règles, il ne comprend pas vraiment s'il y a un objectif.
Le pire escape game du monde, quoi.
Bah c'est une sorte d'escape game où tu peux pas t'échapper, en fait. Donc c'est assez compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai jeu avec le spectateur pendant tout le film où tu es au même niveau que Michael Douglas, c'est-à-dire... Est-ce que c'est un jeu ce qu'on voit ou est-ce que c'est de la réalité
ouais,
quoi.
Qu'est-ce qui est réel,
est-ce que c'est de la fiction pure, c'est-à-dire du cinéma, hein, ou la réalité et je me suis en train de me faire écraser par des gens qui veulent juste mon argent ou détruire ma réputation, etc. Et c'est assez passionnant de voir à quel point ils jouent avec ça. Enfin, beaucoup de ces films racontent ça et il se trouve que ça prend encore plus de valeur avec Mank par la suite. C'est qu'en fait, Fincher... ce que j'aime bien dans Mank personnellement, donc il raconte l'histoire de Herman Mankiewicz, le scénariste de Citizen Kane, et donc tout son travail pour avancer dans la construction de l'écriture du scénario de Citizen Kane, plus que Orson Welles a priori, en tout cas dans la manière dont le film en parle, et lui rendre hommage au scénario, sachant que c'est un scénario écrit par son père dans les années 80, le père de Jack Fincher dans les années 90, qu'il a jamais réussi à faire, mais qu'il réussit à faire avec Netflix. Mais c'est un film qui raconte énormément du pouvoir de l'image déjà à cette époque. Donc maintenant, le pouvoir de l'image, alors on le voit à Twitter, comment tout peut être détourné en permanence avec maintenant l'intelligence artificielle. Mais à l'époque, dont c'est déjà le cas, lui, Fincher, qui connaît très bien le monde de la pub, comment à l'époque de Citizen Kane, le pouvoir de l'image va pouvoir être une manne politique pour influencer des gens pour une élection, etc. Et pervertir l'image comme lui le fait en permanence dans tous ses films pour donner envie de s'accrocher. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui rend hommage au scénariste, au métier de scénariste, sachant que Fincher n'a jamais écrit aucun de ses films. Hein. Il a participé au scénario, mais il ne se crédite jamais en tant que scénariste, disant qu'il n'est pas un scénariste. Et je trouve ça bon, c'est assez marrant que le film ait été visionnaire d'une certaine manière à mettre en avant autant le métier de scénariste 3 ans avant une grève historique de scénaristes à Hollywood hein. Donc déjà rien que pour ça j'aime beaucoup ce film, mais surtout le métier de scénariste, ou en tout cas l'idée de la personne qui raconte des histoires, est au cœur du cinéma de Fincher depuis toujours. John Doe, c'est un mec qui se raconte une histoire, enfin les serial killers en général, ce sont des gens qui se racontent des histoires pour pouvoir écrire leur meurtre, etc. Dans The Game, bah, il y a littéralement une histoire pour mettre en difficulté un personnage et pour lui permettre de renaître ou de recomprendre le contrôle ou de basculer dans une recomprendre, on va dire, la difficulté qu'il avait vis-à-vis de son père, etc. Puis t'en as d'autres comme ça, là j'ai pas d'idée.
Fight Club, hein, évidemment.
T'as Fight Club, évidemment, c'est un personnage qui se raconte une histoire à lui-même pour essayer d'avancer. Et t'as aussi Amy dans Gone Girl qui littéralement écrit son propre scénario pour pouvoir avancer avec son journal intime. Voilà, plus le Zodiac, plus... voilà, enfin, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que Mank est un peu... genre mal aimé, et je peux comprendre parce que c'est un film extrêmement exigeant et que Fincher ne donnera aucune clé pour avancer si tu n'as pas les clés de compréhension vis-à-vis de l'époque, vis-à-vis de...
du contexte historique.
Du contexte, ouais, exactement. Oui, mais c'est un film qui est vraiment passionnant et qui raconte beaucoup de l'époque, du scénario, de comment on produit un film, de la magie du cinéma, le pouvoir de l'image, et en même temps qui, pour moi, est un des films les plus humble de Fincher, malgré sa conception extrêmement complexe et exigeante, puisque lui-même se dit, en gros, pour moi, dans le film, en fait, sans un scénariste, sans tous les métiers qui tournent autour de moi, bah, en fait, je serais nul à chier, quoi. Simplement. C'est ça que je trouve beau.
Oui, ouais, mais j'allais dire, je suis d'accord. Je veux pas dire voilà, que Fincher est nul à chier, sinon là, je ressortirai jamais vivant de cette pièce. Mais ouais, enfin, c'est ce que je vous disais plus tôt. C'est vrai que moi, ce que j'aime dans les films de Fincher, c'est avant tout l'histoire qui est racontée, vraiment pas spécialement par la mise en scène, mais par le récit, vraiment, qui est d'habitude vraiment pas ce que je priorise dans les films. Mais là, et c'est pour ça que j'aime Panic Room, c'est parce que j'aime toutes les petites péripéties qui en font un film extrêmement ludique, etc. Je trouve ça intéressant qu'il ait ce discours dans Mank. Après, moi, c'est vrai que c'est un film. C'est pareil, qui m'a pas davantage touché que ça, parce que je trouve que c'est compliqué de vivre ce film qui est long à travers les yeux d'un personnage qui est quand même assez antipathique, joué de manière aussi antipathique par Gary Oldman, qui est déjà pas toujours plus facile, malgré son énorme talent. Hein. Et là, c'est pareil, enfin, les personnages féminins, il y en a des plus ou moins intéressants, mais... je sais pas, on interroge très très peu leur place dans le récit et ça me fatigue un peu, mais bref, je trouve ça intéressant ce que tu dis, justement, l'analyse que tu fais, parce que moi, effectivement, c'est vraiment avant tout la scénarisation de ces films qui me touche, quoi.
C'est vrai que, tu vois, finalement, on parle beaucoup de mise en scène, mais moi, ce qui me plaît aussi chez Fincher, c'est comment il aborde ses récits via l'envie toujours, et qui est de plus en plus exigeante là-dessus d'ailleurs, de te perturber, c'est-à-dire que t'avais l'idée de la fin abrupte et du twist comme tu pouvais en avoir dans Fight Club et ouais, Seven,
The Game aussi.
Et The Game aussi, évidemment. Même si, bon, pour le coup, je trouve que The Game traîne la patte et tourne un peu en rond au bout d'un moment. Mais moi, ce que j'aime beaucoup à partir de Zodiac, et je trouve que Millennium est vraiment celui qui a poussé ça le plus loin, c'est qu'en fait, t'as pas de troisième acte, t'as une espèce de deuxième acte permanent, qui devient troisième, quatrième, cinquième acte, mais t'as pas une structure en trois actes classiques sur un film comme ça. T'as l'impression que tu sais pas où le film t'emmène, et là encore, tu l'acceptes ou pas, et manque un peu aussi ce truc-là, en fait, où tu passes ton temps à dire je vois pas trop où tu m'emmènes, parce qu'a priori la conclusion logique, c'est que Citizen Kane est écrit, tu vois, et oui, voire mis en scène, mais le truc vivote, traîne un peu, et encore une fois, je pense que c'est aussi pour ça, soit t'adhères à cette rythmique là soit pas, mais même Gone Girl, hein, finalement, la première fois que tu vois Gone Girl, faut quand même se dire que tu te dis, t'as le cut en fin de premier tiers et tu passes du point de vue de Amy, tu fais ah ouais, d'accord. Et plus tard seulement, tu reviens du côté de Ben Affleck. Enfin, c'est le film, à ce moment-là, il te manipule tellement sur la forme. Et en fait, c'est là que je trouve ça intéressant, c'est que ça renvoie quand même à ce qu'on disait sur la précision de cette mise en scène-là et de comment Fincher le fait. C'est qu'en fait, là où je trouve qu'il est trop fort, c'est qu'il il s'accroche tellement justement au point de vue de ses personnages, à leur moindre micro-gestuel et à tout ça, qu'en fait, il manipule tes sens de spectateur en même temps qu'il manipule leur sens à eux de personnages, en fait. Enfin, notamment dans ses premiers films comme Fight Club, où justement, tout est question de perception que t'as de ton, du monde autour de toi et comment tu te fais petit à petit avoir, en fait. Et pareil pour The Game, d'ailleurs, qui finalement est très précis sur les mouvements de ses, très parano de son personnage qui essaie de voir les coulisses du monde qui semble se créer autour de lui, de ce monde factice qui semble se créer autour de lui. Et là, je trouve que dans ces moments-là, ce côté voilà, ludique qu'amène Fincher me plaît énormément.
Oui, mais bah, c'est normal parce qu'il y a un jeu avec le spectateur en fait, qui est vraiment posé dans, bah, dans Seven. Il y a cette envie de savoir qui ça va être. Donc on est avec les enquêteurs, on veut... savoir ce qui est coupable de tous ces meurtres ou de toute cette affaire de péchés capitaux, etc. Très, très élaboré quand même. Ensuite, tu as The Game qui joue littéralement avec le spectateur avec des petits détails que tu peux pas forcément déceler au premier visionnage, mais qui régulièrement te donnent des pistes, notamment quand lui il va chez elle. Et qui découvre que son appartement est en fait une sorte de décor de cinéma, hein. Et que en fait avant qu'il rentre à l'extérieur, t'as un petit un utilitaire quoi, et c'est marqué CRS. Je sais plus comment s'appelle la société.
Ah oui.
C'est CRS en tout cas. Oui, c'est ça. Bon bah c'est marqué CRS, mais si tu le remarques pas, tu te dis bon bah why not. Mais quand tu le sais, tu te dis ah ok, donc en fait ils sont là aussi, mais est-ce qu'ils sont là dans un but de le piéger, ou est-ce qu'ils sont là pour genre le tuer ou lui faire du mal, comme ce qui se passe après, parce qu'au final tu vois qu'ils ressortent d'une petite camionnette, mais si tu l'avais pas vu, tu savais pas qu'ils étaient là depuis le début et qu'en fait ils maîtrisent la situation depuis qu'il est arrivé à l'endroit quoi. Et il y a que des petits jeux comme ça avec le spectateur, comme sur Millennium, où toi aussi t'es dans l'enquête, t'as envie de savoir qui est coupable, c'est lequel, et quand vraiment, moi je trouve ça incroyable quand elle commence à revenir à la fin, quand elle voit tous les liens et qu'elle fait putain, il était là, oh, il était là, t'es en mode oh, mais ça y est, tout ok. Moi je suis à fond, je suis en mode oh, là,
c'est ça, il arrive quand même à rendre excitant le fait de remplir un tableau Excel, hein. C'est quand même le seul mec au monde qui arrive à faire
ça. Point d'interrogation. là, je souffle coupé. Et c'est comme ça pareil avec le Zodiac aussi, où t'es en recherche et toi aussi tu te prends dans la paranoïa des personnages, où tu te dis non mais attends, si c'est pas lui, mais oui, mais forcément c'est lui, mais oui, c'est évident. Et en fait tu rentres dans la tête des personnages où tu te dis mais oui, mais sa théorie elle est super, mais forcément c'est ça. Et après il y en a une autre théorie qui fait mais non, mais en fait c'est sa théorie, ok, mais du coup il y a un vrai jeu avec le spectateur, comme tout comme dans Panic Room, à savoir comment elle va s'en sortir, est-ce qu'elle va réussir à aller chercher ce téléphone, et t'es avec elle, t'es en mode mais non mais vas-y, j'attrape le,
il a mieux ralenti à ce moment là en plus pour bien dilater
le temps et venir
mais ce qui tu vois fait aussi que pour moi je pense qu'on a autant retenu la séquence d'intro de Social Network pour cette raison, parce qu'au-delà de la rapidité du rythme de parole, tu comprends tout des enjeux de qui est Mark Zuckerberg dans cette séquence-là, en fait.
Ouais, ouais, bah oui.
Et pas seulement parce qu'il va être blessé dans son ego et dans sa chair à ce moment-là par cette rupture, mais parce qu'en fait, ça dit dans la fluctuation permanente du dialogue, non seulement tu comprends que c'est un mec vif, mais tu vois aussi à quel point c'est un immonde connard, en fait. Et ça se transmet par les subtilités du dialogue qui se fait. Et en fait, comme il t'impose ce rythme-là, à partir de là, tu lâches plus le film, en fait, et ça te met dans cette dynamique-là, ça te met dans un espace mental, en fait, c'est surtout ça. Je trouve que ça te met vraiment dans la dynamique de ces personnages, et là où je te rejoins, effectivement, sur Zodiac, moi, c'est la sensation que j'ai en permanence, où tu te dis, mais en fait, est-ce que là, il a raison ? Mais non, en fait, là, il a peut-être raison. Et ça te rend aussi taré que le film. Et je pense
la fin rend taré, d'ailleurs.
La fin rend taré. Ouais.
Mais trop intéressant, d'ailleurs, la fin... où tu vois comment en fait la plupart des films de Fincher essayent de rentrer dans la tête des personnages, et en fait t'as plusieurs films où les personnages essayent de rentrer dans la tête des personnes avec qui ils sont, ou enfin qu'ils rencontrent, etc. Et t'as littéralement ce plan du coup dans Zodiac à la fin où il va juste voir le personnage de John Carroll Lynch, donc je sais plus comment il s'appelle le personnage dans Zodiac. Enfin, celui qu'on pense au début, qui est avec la montre Zodiac et tout, qui est en train de travailler et qui va juste le voir pour voir et se dire « Ok, je voudrais savoir ce qu'il y a dans sa tête. » Il le regarde, mais il ne pourra jamais savoir la vérité. Enfin, en tout cas, jamais savoir on ne pourra jamais vraiment savoir la vérité, quoi. Et t'as la même chose dans Gone Girl, au début, où il veut rentrer dans la tête de sa femme.
Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ma femme, ouais,
ouais. Comment je pourrais la disséquer et essayer de comprendre. Et à la fin... où il se rend compte qu'en fait, même s'il a compris ce qu'elle voulait faire, il n'est toujours pas rentré dans sa tête et de savoir de quoi elle est capable, et toujours venir confronter ce regard de j'aimerais bien rentrer dans la tête de tout le monde pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le monde, comprendre les personnages, comprendre leurs actions, etc., voir les anticiper, mais en fait le monde ne me le permet pas, quoi. Et c'est ça que est trop passionnant, en fait, par rapport à ce que ça raconte aussi de nous en tant qu'humains, hein, tout simplement, toujours être dans le doute vis-à-vis de nos relations, de plein de choses.
Et d'où le paradoxe, d'ailleurs, tu vois, de voir Fincher aujourd'hui tourner en 6-8K avec les meilleures caméras du monde. Moi, dans Gone Girl, je me souvenais plus de cette séquence-là, mais que je trouve absolument magnifique. Finalement, d'ailleurs, que le fait qu'il tombe amoureux dans cette ruelle où il y a cette pâtisserie avec cette envolée de sucre dans la rue, que tu pourrais que capter avec de la 4K comme ça, tu vois, avec une caméra où il fait super nuit, mais où tu vois quand même tout de manière très précise, et que tu captes la particule de putain de sucre dehors, parce qu'il peut faire ça avec sa caméra. Donc t'en es au pixel près, tu peux capter de la particule extrêmement précise, tu vois, la matière dans toute sa précision, mais il y a la limite de l'indicible, il y a la limite de l'invisible, il y a la limite du corps que tu peux pas totalement franchir. Tu peux le faire si t'es tueur en série, mais c'est tout, quoi. Et donc effectivement, t'as cette espèce de frontière que devient la tête de Rosamund Pike quand il dit je pourrais la casser pour essayer d'aller à l'intérieur et essayer de comprendre ce qu'il y a dedans, mais même là en fait ça ne marcherait pas, parce qu'en fait c'est au-delà de la question de la matière, en fait, et je trouve que le cinéma de Fincher est vraiment passionnant là-dedans, alors que paradoxalement tout ce qu'il fait devient de plus en plus à la fois donc tangible quand il fait des trucs pour de vrai, mais en même temps t'as ce paradoxe de son utilisation de la technologie qui devient de plus en plus intangible, où tu sais même plus ce qui est réel ou pas dans ces films. Là, The Killer, il y a les premiers breakdowns VFX qui sortent, tu hallucines de savoir ce qu'il y a en VFX ou pas dedans. Il y a vraiment des trucs, c'est assez dément. Mais ce qui m'amène finalement à la question, d'ailleurs, tu vois, on parlait de la perversion derrière l'utilisation de la technologie chez Fincher, notamment quand il parle de Facebook et de là dans The Killer aussi, de la rapidité avec laquelle on est connecté, hyper connecté, mais voire trop connecté par le virtuel. Et en même temps, lui, il l'emploie au maximum, notamment bah, évidemment avec Zodiac, Benjamin Button, où il a poussé le de-aging comme aucun autre film l'avait fait à l'époque, et d'ailleurs aucun film l'a fait depuis. Je trouve que le film tient encore très bien la route, Benjamin Button. Hein. Le film a vieilli forcément, mais par rapport à plein de de-aging que t'as vu qui durent 5 minutes dans un film, lui, il se fait ça tout le putain de premier tiers, voire moitié, et ça tient vraiment pas mal la route.
Bah même t'as le de-aging aussi dans la deuxième moitié, hein, quand il devient de plus en plus jeune.
C'est
impressionnant, t'as vraiment l'impression que Brad Pitt, bah, il est jeune, quoi. Alors, le film a été tourné sur 80 ans, donc c'est quand même un exploit.
C'est Boyhood, mais version ultime.
Bon, après, moi, je suis quand même, j'ai toujours un problème avec les CGI. Alors, c'est vrai qu'il y en a plein chez Fincher. Je prétendrai pas savoir tous les détecter, hein, loin de ça, loin de là. Mais c'est vrai que sur les humains, je trouve ça quand même toujours un peu compliqué. Évidemment que c'est très bien fait sur Brad Pitt dans Benjamin Button, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est très bien fait si c'était un jeu vidéo, quoi. Je veux dire, c'est très bien fait à l'échelle de ce qu'on sait faire. Mais c'est quand même toujours pas...
C'est pas parfait.
C'est pas satisfaisant.
Mais par rapport à des trucs qui ont été faits 10 ans plus tard, qui sont plus moches encore, alors que la technologie est censée avancer, parce qu'il a bossé avec Lola VFX, qui est le spécialiste dans le de-aging, et notamment, bah, c'est Benjamin Button qui les a vraiment amenés à plus tard collaborer beaucoup chez Marvel et avec et Blade Runner 2049 aussi. Donc c'est vraiment devenu la société spécialisée là-dedans. Mais je trouve qu'encore aujourd'hui, à part quelques cas très précis de de-aging très réussis, et qui souvent dépendent d'ailleurs aussi du physique et du corps de l'acteur, je trouve que Benjamin Button est quand même assez, assez spectaculaire là-dessus, surtout pour une durée aussi longue, parce que d'habitude ça dure 5 minutes dans un film, c'est un flashback. Et
hashtag Indiana Jones, ouais. Mais non, mais je suis d'accord, mais voilà, tu vois, c'est en comparaison de, ou c'est par rapport à, et voilà, si on prend le film pris tout seul, je vois bien qu'évidemment, c'est pas mal du tout, mais moi, ça me sort quand même toujours du film. J'avoue que je préfère un maquillage mal fait, je crois, qu'un de-aging numérique.
Après, il y a beaucoup de maquillage, hein, quand même, dans Benjamin Button. Mais c'est intéressant que le de-aging, enfin, pas le de-aging, on va dire l'utilisation des CGI vraiment de manière extrêmement conséquente dans les films de Fincher, te sortent un peu du film régulièrement, sachant qu'en fait la plupart de tous les plans sont faits, ont des retouches numériques en permanence. Quand tu vois, on n'a pas beaucoup parlé de Mindhunter, dont il a réalisé quelques épisodes, mais c'est pas le showrunner puisque c'est Joe Penham, mais en gros il a quand même énormément supervisé la série. Au point où ça lui prenait tellement de temps que Netflix lui a dit frérot, t'as quand même un contrat avec nous, donc il va falloir que t'arrêtes et que tu bosses. C'est-à-dire que c'est bien sympa de nous faire une saison, mais si c'est pour mettre 3 ans pour faire une saison, on va arrêter la série. Pas de chance, la série a été arrêtée du coup. Mais le nombre de retouches numériques qu'il y a juste pour modifier un trottoir pour lui donner un sens vis-à-vis de l'époque à laquelle est censée se passer l'histoire, rajouter quelques arbres pour rajouter quelques arbres. Voilà. C'est hallucinant, rajouter un peu de neige pour donner un cachet un peu différent à la scène ou l'intro. La mettre à l'intérieur d'une saison particulière. Quand tu vois que dans Zodiac, toute l'arrivée sur le front de mer pour identifier San Francisco au début du film est fait uniquement numériquement, parce qu'en fait, il faut le refaire dans la manière dont c'est San Francisco de l'année, des années 60, voilà, c'est ça, des années 60, début des années 70 aussi. En fait, en permanence, tu as des CGI tout le temps chez Fincher, et c'est ça que je trouve impressionnant, parce qu'en fait, genre, si tu ne regardes pas, si tu ne le sais pas, bah, c'est genre invisible. Mmh. Alors que tout le monde, en permanence, se plaint de la qualité des CGI, notamment maintenant avec les abominations de Marvel ou d'autres gros blockbusters, pourtant à énormément de budget, mais qui font très très mal leur VFX par manque de temps, en grande partie, mais qui sont très inaboutis, alors que c'est censé être le cœur du film quand même, et que Fincher, lui, ce n'est pas censé être le cœur de ses films, et pourtant ils sont là en permanence, mais invisibles à l'œil. C'est ça qui est genre vraiment impressionnant. Enfin, moi, de toute façon, moi, j'avoue que le fait que ça soit toujours aussi parfait visuellement me tracasse.
Mais tu vois, je trouve que tout ce que tu dis, ça va toujours vers un petit peu ce que je disais avant, vers une désincarnation du cinéma, parce qu'en fait, il y a une sorte de refus de plus en plus total de la contrainte, en fait. Plus jamais tu composes avec le décor tel qu'il est, que tu ne peux pas modifier, avec des choses qui sont filmées comme ça, et point barre, il faut que tu fasses avec, tu vois, il faut que tu penses ton cadre en fonction d'eux. Or, moi, j'aime bien travailler avec des contraintes, et j'aime bien quand les gens travaillent avec des contraintes aussi, parce que je trouve qu'il y a vraiment la création et même l'art, éventuellement, naît beaucoup de la nécessité en fait de réussir à créer dans un cadre en fait, et du coup c'est pour ça que moi aussi c'est un cinéma qui me parle pas, mais par contre c'est vrai que c'est intéressant de voir comme il est dans ce désir de contrôle absolu, et en même temps du coup il va, c'est toujours le premier à s'engouffrer dans les nouvelles technologies. Et en même temps, ces nouvelles technologies, on ne sait pas forcément comment elles vont vieillir après. Et donc, il crée en fait une sorte de risque, de hasard en fait dans ces films. On ne sait pas comment ça va vieillir. On ne sait pas à quel point ça va rendre, à quel point ce sera bénéfique sur sa carrière sur le long terme. Et pourtant, il y va. Et du coup, il y a quand même un côté pionnier qui est intéressant. Et donc, notamment, moi, ça me rappelle une fois où j'étais donc en école de cinéma, il y a de cela jadis.
il y a si longtemps.
Voilà, naguère. Et où en fait, il y a des gens de chez Adobe qui étaient venus nous présenter le logiciel Premiere Pro. Parce qu'on était dans une époque encore où un cinéaste qui se respecte, son film se montre sur le logiciel Avid. Donc pas en deux mots, hein, c'est un mot, Avid. C'est le nom du logiciel. Non, parce qu'il y a déjà eu des confusions en école. Mais en fait, donc les gens de Premiere Pro étaient venus nous montrer justement comment fonctionnait le logiciel, et ils nous montraient ça sur la timeline de Gone Girl, parce que c'était donc le premier long métrage de sortie internationale, etc., qui se montait sur Premiere Pro. Et c'était vraiment quelque chose d'assez nouveau d'avoir un cinéaste, donc notamment reconnu comme David Fincher, qui fait un gros film avec des grandes stars et qui s'abaisse entre guillemets, mais sans qu'il y ait quoi que ce soit de négatif là-dedans, mais je veux dire en tout cas qui se met au niveau du tout venant, qui pouvait monter sur Premiere Pro. Et en fait, démocratise le fait de pouvoir, monter un film d'une telle précision technique qui se fasse sur un outil en fait qui touche tout le monde, qui n'est pas réservé à une élite inatteignable du cinéma. Donc ça, c'est une démarche malgré tout que je trouve intéressante.
Oui, et ça amène finalement à la question terminale, c'est que cette soif d'expérimentation qu'on évoquait même il y a une semaine et finalement, qui a posé problème à Fincher dès Propaganda, quand il commençait à faire des clips qui étaient beaucoup trop chers, qui étaient beaucoup trop exigeants et trop parfaits. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que Fincher ne bosse plus pour le cinéma, mais pour Netflix, puisqu'en fait, quand il a une envie de projet qui pourrait très bien se faire ailleurs pour 40-50 millions de dollars, lui, les budgets explosent très vite. L'Âge de Killer, j'ai plus le coût, mais c'est assez conséquent quand même.
C'est estimé à 175 millions.
Ouais, voilà, ce qui paraît...
Oh la vache !
Après, encore une fois, il y a aussi une différence, c'est que les films Netflix, on sait pas combien... Enfin, les budgets, c'est difficile de savoir comment c'est réparti, parce qu'en fait, on sait pas si ça compte le marketing ou pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de marketing aussi pour des films... Enfin, il y a moins de marketing pour les films Netflix, il n'y a pas de trucs de distribution qui doivent être comptés, etc.
Mais est-ce que du coup, tu vois, c'est pas finalement à la fois la grande qualité de Fincher, c'est qu'il résiste aujourd'hui aux contraintes d'Hollywood qui ne veut soit que du film de franchise très marqué, enfin très calibré et fait d'une certaine manière, qui d'ailleurs déplaise à d'autres cinéastes aussi, hein, comme on l'a vu avec Gareth Edwards sur The Creator par exemple récemment. Ou alors est-ce que juste pour le coup il voit un peu trop grand des fois ou trop parfait, tu vois, quitte à faire péter des budgets sur des trucs qui ne méritent peut-être pas autant et que c'est pour ça qu'il y a que Netflix, qui peut.
C'est l'objectif que ça ne se voit pas théoriquement. Ouais. L'objectif c'est que ça ne soit pas visible le budget que t'es mis ou le budget que t'es mis dans les effets spéciaux. Le but des effets spéciaux c'est qu'ils soient indicibles. Sauf si c'est l'objectif c'est de faire des grosses explosions, etc. Théoriquement tu n'es pas censé voir à quel point le plan est retouché, sinon c'est théoriquement une erreur.
D'accord, mais The Killer quand même, parce qu'il y avait vraiment besoin.
175 millions pour The Killer, ça me paraît beaucoup.
Ouais.
Je pense que ça a coûté 175 millions, mais encore une fois, les budgets de Netflix de toute façon sont extravagants, enfin les budgets des plateformes en général sont extravagants. Mais pour revenir, je trouve que c'est intéressant que tu disais qu'il n'y a pas de contraintes dans le cadre, en tout cas qu'il se supprime les contraintes dans le cadre, mais est-ce que c'est pas une contrainte de se mettre autant d'exigences dans ce que je vais filmer, je vais devoir le retoucher numériquement, et quand il filme il sait qu'il va devoir tout retoucher, et est-ce que c'est pas une contrainte d'utiliser Adobe Premiere alors qu'il pourrait utiliser un truc hyper beaucoup plus sophistiqué que ça, tu vois. Je trouve qu'il y a une forme de c'est pas qu'il s'en supprime les contraintes, c'est qu'il préfère en avoir d'autres. Fincher, de ce que je me souviens, c'est que ce qu'il raconte régulièrement c'est qu'il adore tout le processus de création mais qu'il déteste tout ce qui suit, le tournage, le montage, etc. Donc pour lui c'est potentiellement une forme de contrainte que juste devoir faire son film, mais vraiment le faire, quoi. Pas devoir. Il adore la recherche historique quand il passe 5 ans pour rechercher des documents sur Zodiac. Bon, le mec est quand même frappé dingue. Je suis pas méchant, mais j'adore Fincher, mais enfin, à un moment donné, le gars, il faut quand même genre stop, frérot. Donc, quand il fait ça, je le trouve fou, mais en même temps, il a vraiment des contraintes en permanence. Et quand il se lance dans Netflix, je trouve que tout le monde le rabaisse énormément. Rabaisse énormément ce qu'il a fait sur Netflix, donc que ça soit, enfin en tout cas en termes de cinéma, donc Mank et The Killer, parce que Mindhunter et House of Cards sont quand même plutôt très critiqués de manière positive. House of Cards, il a, on va dire,
donné l'esthétique de
la série, l'identité esthétique est clairement grâce à lui par rapport aux deux premiers épisodes. Mindhunter est devenu un peu sa série alors que c'est pas lui qui l'a showrun. Son épisode dans Love, Death and Robots est vraiment encore une expérimentation hyper intéressante de la, je sais pas comment il l'a fait, si c'est de la motion capture ou pas.
Oui, performance capture, ouais, et voilà. Plus 3D, ouais.
C'est ça, de la performance capture avec de la 3D, c'est assez hallucinant. Et en fait, avec les films, j'ai l'impression qu'en fait il se fout un peu de la gueule de Netflix, c'est-à-dire que le premier film qu'il fait c'est littéralement un film anti-streaming, c'est le film le plus exigeant de sa carrière, le film le moins avenant de sa carrière, avec du noir et blanc, une histoire qui va jamais te tenir par la main. Franchement, bon, c'est compliqué, quoi, pour des abonnés qui veulent du contenu facile, du contenu, hein, je dis bien. Et ensuite, il fait The Killer, c'était l'extrême opposé, un film d'une simplicité remarquable, qui suit une histoire extrêmement basique, qui peut donner envie de les spectateurs, c'est-à-dire un tueur, donc quelque chose d'assez divertissant. Enfin, c'est, enfin, de suivre les aventures d'un tueur. Hein, c'est pas spécialement un tueur qui est divertissant, mais de suivre les aventures d'un tueur et d'avancer avec des meurtres, quelque chose de très chapitré. Donc les gens peuvent mettre pause en permanence, ce que les gens détestent au cinéma, c'est quand c'est trop long. Mais avec Fincher, tu peux faire une pause toutes les 20 minutes parce qu'il y a un chapitre dans The Killer. Donc c'est trop bien. C'est littéralement le contenu parfait du streaming face à Mank, ce qui était l'opposé, c'est-à-dire que Netflix lui permet de montrer l'éventail de ce que pourrait être le cinéma, c'est-à-dire un truc hyper dur, complexe comme Mank, et l'extrême basique de la série B que peut être The Killer. Et c'est ça qui est trop fort, c'est-à-dire Netflix potentiellement le retranche un peu dans son perfectionnisme, parce que vu qu'il est moins suivi par des producteurs probablement, parce que Netflix sont pas vraiment des producteurs mais plus des financiers, enfin plus juste là pour donner de l'argent que suivre les projets de manière très précise. Donc je pense que forcément il est vraiment roi du monde, roi du pétrole. Et en même temps, il va quand même chercher autre chose, quoi.
Oui, il va chercher autre chose. Mais aussi parce que, il le dit lui-même, hein, que Mank, tu le disais, mais il voulait faire des Propaganda, en fait. À l'époque, Propaganda voulait faire des longs métrages et que ça s'est pas vraiment fait. Et il a jamais pu le faire, pu le monter avec un studio. Et vers la fin, ça devenait de plus en plus compliqué d'arriver à faire des trucs comme Millennium et tout ça. Et Millennium, ça a été une grosse déception parce qu'il était persuadé que Sony à l'époque voulait faire les trois parties d'avance. Et ce qui ne s'est pas passé une fois que le film a quand même bien bidé et que à peine 6 mois plus tard sortait le premier Avengers et qu'à partir de là ça a un peu mis fin à beaucoup de choses. Donc on peut trouver que c'est une tristesse que Fincher aille sur Netflix, mais ça rouvre toujours le débat de qu'est-ce qu'on fait avec le streaming. Et je pense que ce qu'il en fait, ça me déçoit forcément qu'il revienne pas sur grand écran, et j'ai pas vu The Killer sur grand écran et ça m'emmerde profondément. Mais bon, il y a quand même quelque chose d'assez fascinant dans le fait que cette exigence là montre à quel point les studios peut-être eux en ont perdu aussi. En tout cas, c'était bien sympa de parler avec vous de ce cher David. Et je pense que ça nous fait pas mal d'angles pour de futurs articles vachement intéressants. Mais je me dis, c'est dommage, mais ça ferait un super sujet de podcast le jour où Écran Large décidera d'en faire un. Et si un jour on fait ce podcast, il faudra rappeler aux auditeurs de s'abonner, de le partager, de mettre 5 étoiles sur leurs applis d'écoute et de mettre un commentaire. Et on pourra au passage remercier les gens de nous soutenir parce que ça reste le plus important.
Absolument.